7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 3 juillet et c'est une grande première pour l'Union européenne. Deux femmes à des postes clés. Au terme de négociations marathon, les 28 ont finalement réussi à se mettre d'accord. L'Allemande Ursula von der Leyen récupère la tête de la Commission européenne. Christine Lagarde hérite de la Banque centrale. C'est un nouveau défi de taille pour la patronne du FMI. Les enjeux éco avec Nicolas Barré à 7h15. Une nomination surprise, nous dira Jean-Michel Apathy à 7h40. Le père de Flamanville fonctionnera-t-il un jour pour la première fois? L'éventualité d'un abandon pur et simple du projet est évoquée. Les travaux ont déjà 7 ans de retard. Ils ont coûté 11 milliards d'euros. Ce serait un désastre pour EDF. Que va-t-il se passer maintenant? Quelles sont les autres options? Enquête à ne pas manquer à 7h20 dans Europe 1 va plus loin. Aujourd'hui encore, une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. En dépit des efforts entamés par les pouvoirs publics, ce chiffre ne baisse pas. Les associations tirent la sonnette d'alarme. Elles demandent au gouvernement d'agir au plus vite. Et à 7h45, je reçois Anne-Cécile Melfer, elle est présidente de la Fondation des Femmes. À 8h15, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, sera l'invitée politique de David Doucan et ce sera l'un des thèmes abordés pendant l'interview. Voilà pour le programme. On est ensemble jusqu'à 9h. Merci de nous faire confiance. Bon réveil à tous.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce mercredi matin. Il est 7h. Bienvenue. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Hélène Zelani, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une ce matin, vous commencez avec des révélations.
Oui, Raymond Barre aurait eu un compte caché en Suisse, près de 7 millions d'euros à sa mort. Ses enfants n'ont hérité, révélation du canard enchaîné dont on vous donnera les détails dès le début de ce journal. Ça y est, le casting est au complet. Les dirigeants de l'Union européenne ont réussi à se mettre d'accord sur les postes clés avec notamment deux femmes, la française Christine Lagarde et l'allemande Ursula von der Leyen. Et puis, des femmes qui gagnent, ce sont les Américaines qualifiées pour la finale du mondial féminin de foot. Elles ont sorti les Anglaises hier soir 2-1.
Europe 1.
Un ancien ministre des Finances qui donne dans la fraude fiscale, cette fois il ne s'agit pas de Jérôme Cahuzac mais de Raymond Barre, le canard enchaîné qui paraît ce matin, révèle que l'ex-premier ministre, décédé en 2007, aurait caché l'équivalent de 7 millions d'euros en Suisse. Sa famille en aurait hérité sans le déclarer. Aujourd'hui, on sait qu'une information judiciaire est ouverte depuis plus de 3 ans pour blanchiment de fraude fiscale. Justin Morin.
Au départ, le fisc est mis au parfum, comme souvent, par un informateur secret. C'était en 2013. Les services des impôts reçoivent un document émanant du Crédit Suisse. Il mentionne le nom, la carrière politique de Raymond Barre, ainsi qu'un numéro de compte et ce nombre écrit à la main, 11 millions de francs suisses. Les enquêteurs du fisc confirment cette somme et prennent le relais. Mais d'après le canard enchaîné, que ce soit sa femme ou ses deux enfants qui en ont hérité, personne ne semble vouloir coopérer. La menace de saisir la luxueuse villa familiale située sur la Côte d'Azur les fait changer d'avis. Fin 2013, l'avocat des enfants de Raymond Barre accepte de régulariser leur situation en échange d'une discrétion totale sur cette affaire. Car d'après ce témoignage de l'avocat rapporté par le canard enchaîné, une personnalité toujours en vie pourrait être éclaboussée par cette affaire. Rien de plus ne sort, le parquet national financier finira tout de même par en être informé. L'enquête pour blanchiment de fraude fiscale est aujourd'hui toujours en cours. Quant aux enfants de Raymond Barre, ils ont dû s'acquitter d'1 million d'euros de pénalité.
Justin Morin, et la police ne connaît toujours pas l'origine de cet argent.
De la fumée blanche hier à Bruxelles.
Oui, enfin, il aura fallu 48 heures de discussion et de marchandage. Mais ça y est, on connaît le casting des dirigeants européens pour les 5 prochaines années, avec notamment une surprise, Christine Lagarde à la Banque Centrale Européenne, ce dont se félicite Emmanuel Macron.
Madame Lagarde a en effet toutes les compétences et qualités requises pour diriger la Banque Centrale Européenne. Elle a été pendant plusieurs années ministre de l'économie et des finances, à une époque particulièrement difficile, en affrontant des crises, en particulier la plus grande crise financière et de dette souveraine des dernières décennies. Elle a ensuite été à la tête du Fonds monétaire international, ce qui me paraît qualifié très profondément pour avoir les qualités requises, d'une part pour maîtriser la politique monétaire, d'autre part pour avoir une crédibilité face au marché, devant d'une part les investisseurs et tous les commentateurs de marché.
Et l'Allemande Ursula von der Leyen dirigera la Commission, le Belge Charles Michel le Conseil européen. Emmanuel Macron parle d'un nouveau souffle pour l'Europe. D'ailleurs, Isabelle Horry, il s'est activé en coulisses pour parvenir à ce résultat.
Oui, Emmanuel Macron a passé une partie de la journée d'hier dans les étages du Conseil européen. Il est allé à la rencontre des autres dirigeants, une grande feuille de papier pliée en quatre à la main. Au fil de ces discussions, il y notait ou y rayait les différentes options. Lundi soir au téléphone, c'est lui aussi qui a proposé à la chancelière allemande le nom de sa compatriote Ursula von der Leyen pour la Commission européenne. Un nom accepté par tous et qui a permis de sortir de l'impasse des jours précédents. Emmanuel Macron a donc réussi à revenir au centre du jeu en jouant ostensiblement le franco-allemand et en volant au secours d'une chancelière fragilisée par les divisions de son propre camp. Le compromis trouvé est sans aucun doute une grande victoire pour lui. Il ne voulait pas se voir imposer les candidats des familles politiques européennes, il a réussi. Bientôt, il y aura une Allemande francophone et très pro-européenne à la tête de l'exécutif européen. C'est aussi l'un de ses plus proches alliés qui va présider le Conseil européen. Et cerise sur le gâteau, Christine Lagarde part à la Banque centrale européenne. Clairement, hier, le président avait oublié son coup de gueule de lundi. Il était satisfait.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1. Avis aux parents, la fessée c'est terminé. La France devient le 56e État à bannir les châtiments corporels. Hier, le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi qui interdit les violences éducatives ordinaires, c'est-à-dire les coups, les gifles, mais aussi les humiliations, les insultes ou les moqueries. Mais il n'y aura pas de sanctions. Et puis toutes les vigilances sont désormais levées. Mais hier soir en Savoie, un orage a provoqué une très grosse coulée de boue. Résultat, la ligne SNCF entre Saint-Jean-de-Maurienne et Modane est inutilisable pour plusieurs semaines. Ligne sur laquelle circulent notamment des TGV entre Paris et Milan.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani. On va revenir sur l'affaire Vincent Lambert, mais aussi sur la victoire des footballeuses américaines qualifiées pour la finale du mondial. A tout de suite sur Europe 1. Bon réveil.
Votre matinale info, Nico Saliegas.
La suite du journal avec Hélène Zélani, avec cette douloureuse affaire Vincent Lambert qui n'en finit pas, mais qui connaît peut-être finalement un épilogue.
Oui, hier, le chef du service des soins palliatifs du CHU de Reims a engagé un nouvel arrêt des traitements. Il en a prévenu la famille, processus rendu possible par la récente décision de la Cour de cassation. Cette fois, il n'y a plus de recours judiciaire possible pour les parents à Reims. Victor Delande.
En fin d'après-midi, les parents de Vincent Lambert lui ont rendu visite au CHU de Reims. À leur sortie, on devine à peine leur visage derrière les vitres teintées de leur véhicule.
C'est ça.
Aucune déclaration, juste un communiqué de leurs avocats pour assurer qu'ils ont averti le comité des droits des personnes handicapées de l'ONU de ce nouvel arrêt des traitements. Depuis hier, Vincent Lambert a donc été profondément endormi. On lui a ensuite donné des antalgiques pour qu'il ne souffre pas. Et c'est seulement après que les soignants ont arrêté de l'hydrater et de l'alimenter. Le décès devrait survenir dans quelques jours. Ce sont en fait les organes de Vincent Lambert qui vont arrêter de fonctionner tout doucement. Il ne ressentira aucune douleur. Pendant ces derniers moments, les deux camps au sein de cette famille qui se déchirent depuis des années vont se relayer à son chevet sans jamais se croiser. À Reims, Victor Dolande, Europe 1.
Les résultats du bac, si tout va bien, c'est pour vendredi matin. Des professeurs en grève contre la réforme du lycée retiennent tout de même plus de 100 000 copies. Le ministère de l'Éducation menace de leur retirer jusqu'à 15 jours de salaire et assure que la publication des notes ne sera pas reportée. Dans le même temps, l'enquête avance sur les fuites d'un sujet de maths. Hier, 13 jeunes de 17 et 18 ans ont été placés en garde à vue.
Football, les grandes favorites du mondial disputeront la finale dimanche.
Les Américaines, tombeuses de la France, ont fait subir le même sort hier soir aux Anglaises. Victoire 2-1, de quoi donner le sourire aux nombreux supporters américains qui avaient fait le déplacement à Lyon. Simon Rubin.
Du parvis du stade sur les coups de 23h jusqu'aux ruelles du vieux Lyon tard dans la nuit, on a entendu retentir les USA, USA des supporters américains ravis. Les américaines, archi-dominatrices, participeront à leur cinquième finale de Coupe du Monde en 8 éditions. Pour Megan et Laura, deux supportrices venues du Tennessee, c'est un bonheur à savourer.
C'était fantastique, on a passé un super moment.
Ouais, c'était un match fabuleux et peu importe qui aurait gagné, on serait resté et on aurait savouré.
Maintenant, on va bien laver nos vêtements, il a fait chaud.
Et on va surtout boire beaucoup.
Une victoire qui n'enchante pas que les Américains. Inès est venue de Suisse, elle a 16 ans, et comme beaucoup de fans de foot, elle est tombée sous le charme de cette sélection américaine.
C'était hyper bien, juste l'atmosphère qu'il y avait autour, c'était trop cool. De voir l'engouement qu'il peut avoir autour d'un match féminin, ça fait plaisir. Trop de modèles dans l'équipe, genre, je sais pas, Morgane, Rapinoe, Presse, je sais pas, enfin, elles sont toutes cool dans l'équipe. Puis vu que c'est elle un peu la grande équipe favorite, bah, ça vend du rêve.
Et avec la victoire des États-Unis, les 20 000 supporters américains présents à Lyon vont donc prolonger leur séjour. Plutôt sur deux, ils avaient déjà tous en poche leur billet pour la finale depuis des mois. Lyon, Simon Rubin, Europe 1.
Des Américaines qui connaîtront leur adversaire ce soir à l'issue de la rencontre entre les Pays-Bas et la Suède.
C'était le journal de 7h présenté par la formidable Hélène Zélani.
C'est trop.
Mais non, c'est vrai. À demain.
Et si vous souhaitez réagir à l'actualité, vous nous écrivez sur Twitter, hashtag Europe 1. Vous pouvez également nous appeler au 3921, c'est 50 centimes la minute.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h09, Nico, c'est l'heure de retrouver Martin Fenot.
Vous êtes où ce matin, Martin? Bonjour.
Bonjour Nikos, je suis sur un campement médiéval à Maljacet dans les Alpes de Haute-Provence. Je suis entouré d'hommes en armure de chevaliers du 16e siècle. Ils s'apprêtent à passer de l'autre côté de la montagne, traverser la frontière italienne à pied, comme l'a fait François Ier avec son armée il y a 500 ans. Alors, ça peut paraître complètement fou, je vous
un
le concède. Pourtant, Nikos, c'est très sérieux. Sous les costumes, il y a notamment un ancien sportif de haut niveau et un historien qui veulent éprouver la marche en armure.
Là, par exemple, vous avez les gantelets, c'est-à-dire ce qui protège les mains, qui sont bien articulés et qui permettent de se saisir d'une arme. Tout le bras est protégé, pareil, articulé au niveau du coude.
Vous allez aussi avoir le casque, c'est ça?
Alors le casque, ouais, il est là, il fait plus de 2 kilos, rien que ça. Si vous voulez le mettre, vous allez voir tout de suite. Il faut bien relever la visière. Attention les oreilles, on y est là.
On a la sensation un peu d'un casque de vélo, mais un peu plus lourd, quoi.
Un peu plus lourd, oui.
Ouais, c'est lourd quand même, ça pèse combien une armure?
40 kilos pour une marche de 28 km dans des chemins de montagne escarpés.
Magnifique. Et là, la grosse difficulté ensuite de marcher avec ces parties métalliques au niveau des jambes qui ne sont pas faites pour marcher justement.
Parce que là, par exemple, si vous me faites quelques pas avec, là...
Donc là, ça avance, on marche. Mais comment ça va se passer au bout de quelques kilomètres dans la montagne? Ça va être moins évident.
Voilà, d'ailleurs, ils se sont déjà blessés au pied pendant leur préparation à cause des angles de l'armure qui sont parfois tranchants.
Bon courage, mais qu'est-ce qu'ils veulent apprendre de cette expérience, que je comprenne?
Alors en fait, ils veulent confirmer ce que disent les récits historiques, prouver que cette traversée, un exploit de l'époque, a bien été possible.
Le but, c'est pas de jouer au chevalier, c'est d'expérimenter ce que ça pouvait représenter d'avoir cette contrainte métallique sur soi et dans un milieu complètement inadapté à l'armure qu'est la montagne. Ce qui nous permet de ressentir des choses, de revivre certaines choses de l'époque pour mieux les comprendre. Pour un historien, c'est un rêve de revenir dans le passé. Donc quelque part, là, l'archéologie expérimentale permet d'abolir un petit peu cette distance qui nous sépare du passé.
Et ce n'est pas sans risque, hein, parce que les manuscrits racontent que des chevaux de l'armée de François Ier n'avaient pas survécu à cette traversée. Alors d'ailleurs, là, un médecin va accompagner nos chevaliers pour veiller sur leur état de santé pendant toute leur aventure.
On leur souhaite bonne chance. Cette traversée aura lieu ce week-end, départ du village de Maljacet, dans 3 jours. Merci Martin Fenot.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre l'édito éco avec vous Nicolas Barré, bonjour.
Bonjour Nikos.
L'actualité de la Commission européenne et de l'Europe de demain vous interpelle.
Exactement, et de la BCE avec les défis qui attendent la future présidente de la BCE et qui sont colossaux.
On parle de Christine Lagarde. À 7h20, le père de Flamanville va-t-il vraiment ouvrir un jour? Pour la première fois, l'éventualité d'un abandon pur et simple du projet est évoquée. Les travaux ont déjà 7 ans de retard. Ils ont coûté 11 milliards d'euros. Ce serait un désastre pour EDF. Que va-t-il se passer? Quelles sont les autres options? C'est l'enquête de ce matin. Europe 1 va plus loin. A tout de suite.
Excellent réveil à tous sur Europe 1. Il est 7h12. Il est 7h14, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Deux femmes au poste clé de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, ministre allemande pour la tête de la Commission, Christine Lagarde pour la BCE, la Banque Centrale Européenne, l'ex-ministre des Finances qui sera nommée pour 8 ans, se dit très honorée. On en parle dans quelques secondes avec Nicolas Barré. Un nouvel arrêt des traitements est engagé pour Vincent Lambert, son médecin du CHU de Reims en a informé ses parents hier. Édouard Philippe attendu en Corse. Dès son arrivée à Bastia, le Premier ministre doit rencontrer les dirigeants nationalistes Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni. Les footballeuses américaines disputeront la finale du Mondial dimanche après-midi. Hier soir, elles ont éliminé l'Angleterre de 1-0. Elles connaîtront leur adversaire à l'issue du match Pays-Bas-Suède. Ce sera à 21h. Et puis la météo, fin des alertes orages, un temps très ensoleillé dans l'ensemble et des températures de 20 à 35 degrés cet après-midi en France.
La météo complète avec Laurent Cabrol, juste avant le journal de 7h30.
Europe 1.
C'est l'heure, Nikos, de l'édito éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos.
Mais Christine Lagarde devra aussi relever des défis si elle devient la prochaine présidente de la Banque Centrale Européenne, Nicolas.
Oui, des défis colossaux. Alors le premier, bien sûr, sera de gagner la confiance des marchés financiers. Christine Lagarde est une femme politique. Ça peut être un atout parce que l'une des armes majeures d'une banque centrale, c'est la communication. Un mot, un bout de phrase peut tout changer. En juillet 2012, en pleine crise de la zone euro, alors que des pays comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal étaient piégés par des taux d'intérêt qui n'arrêtaient pas de grimper, eh bien il a suffi que Mario Draghi, qui était président à l'époque, qui l'est toujours d'ailleurs, de la Banque Centrale Européenne, dans un discours fameux, dise que la BCE ferait tout ce qui est nécessaire pour sauver l'euro, et hop, la pression était retombée. La parole d'un président de Banque Centrale peut avoir un effet magique sur les marchés financiers. Christine Lagarde le sait mieux que personne, et elle n'a pas besoin de faire la preuve de ses talents de communication. Ce sur quoi elle va être critiquée, en revanche, c'est sur son manque d'expérience au sein d'une banque centrale.
Et en l'occurrence, on attend énormément de la Banque Centrale Européenne.
Oui, pourquoi ? Parce que la croissance faiblit en Europe, parce que l'inflation est plus faible que ne le souhaite la BCE, ce qui n'est jamais une bonne chose parce que ça peut déboucher sur la déflation, c'est-à-dire une forme de déprime économique. Et puis enfin parce que quand les taux d'intérêt sont à zéro, comme c'est le cas aujourd'hui, la BCE manque d'outils pour soutenir l'économie. Et dans ces cas-là, il faut faire preuve d'imagination, de créativité, savoir prendre de la liberté aussi par rapport au traité, faire preuve d'audace. Et c'est là que le rôle de président de la BCE est capital. Un bon connaisseur de la BCE me disait hier soir, la question c'est de savoir si Christine Lagarde sera plutôt Trichet ou plutôt Draghi. Trichet, lui, il ne sortait pas des clous, c'était la voie de l'orthodoxie. Draghi, l'actuel président, a été extrêmement audacieux.
Et il a réussi à sauver l'Europe d'une crise plus grave qu'annoncée.
Exactement, voilà, son pragmatisme a sauvé la zone euro, or il y aura d'autres secousses, il est certain qu'il y aura d'autres crises financières, et le jour où ça arrivera, il faudra que la BCE fasse preuve d'imagination, prenne des mesures probablement non conventionnelles, ose aussi braver le camp allemand qui est le gardien d'une interprétation stricte des traités. Ce sera un moment de vérité pour Christine Lagarde. Elle devra choisir être plutôt Trichet ou plutôt Draghi.
Elle sera elle-même vraisemblablement. Nicolas Barré pour l'édito Écho.
Europe 1. Nikos Aliagas.
Il est 7h18, place à l'enquête de la rédaction. Nikos, Europe 1 va plus loin. Consacré ce matin à l'EPR de Flamanville, sera-t-il un jour mis en service? Et si oui, à quel prix?
L'autorité de sûreté nucléaire a demandé à EDF de refaire 8 soudures qui ne respectent pas les normes de sécurité. La mise en service de cette centrale nouvelle génération est donc une nouvelle fois repoussée. Sur place, il va peut-être falloir tout casser. Quelles sont les conséquences de cette décision pour EDF, mais aussi pour nous, consommateurs? Avec nous, Maude Descamps, spécialiste des questions d'énergie pour Europe 1. Bonjour Maude.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Maude, 8 soudures à réparer, on pourrait dire que c'est pas grand-chose, que c'est facile. En fait, ce sont des travaux titanesques.
Eh bien oui, parce que ces soudures, elles sont inaccessibles, coincées entre deux énormes coffrages en béton. Il se trouve qu'il y a un mois, j'ai pu voir l'endroit où elles se situent, dans le bâtiment qui abrite le réacteur nucléaire. Laurent Thieffry est le directeur de Flamanville 3.
Il faut imaginer qu'il y a deux murs. Entre les deux murs, il y a à peu près 2,50 m. Et donc, c'est une pièce métallique entre ces deux murs. Mais cette pièce métallique comporte elle-même deux soudures avec une bonne qualité. Par contre, elle ne respecte pas, on va dire, un référentiel de très haute qualité que s'était imposé EDF. EDF a proposé de les laisser en l'état parce que ce sont des soudures, évidemment, vous voyez bien, très difficiles d'accès.
Sauf que depuis, la décision de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, est tombée. Il faut réparer, pas le choix. Et donc, depuis 3 semaines, EDF planche sur les différents scénarios de travaux. Tout cela sera présenté cet été au conseil d'administration.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme option sur la table, Maude?
Alors, soit on répare sur place, soit on casse tout autour des soudures et on répare ailleurs qu'à Flamanville. Dans les deux cas, il y a un risque de fragiliser le reste de la structure. L'autorité de sûreté nucléaire devra donc valider tout cela. Ça va prendre des mois, difficile d'imaginer un début des travaux avant la fin de l'année. Mais attention, il y a aussi un autre scénario, un scénario inédit qui n'avait jamais été présenté au conseil d'administration. C'est l'arrêt pur et simple du chantier. Imaginez-vous, l'EPR de Flamanville aurait dû ouvrir il y a 7 ans. Ça a déjà coûté 11 milliards d'euros contre 3,5 au départ. Et voilà ce que me dit un cadre d'EDF. Aujourd'hui, c'est devenu un tel bazar qu'on est obligé de prévoir aussi le scénario du pire. C'est la piste la moins probable, mais elle est sur la table, obligatoire au regard de l'importance des travaux.
Alors ce serait un désastre que EDF va tout faire pour éviter. Est-ce qu'à minima ces travaux engendrent de nouveaux retards?
Alors Que ce soit les cadres d'EDF les mieux renseignés ou les syndicats, tous nous disent la même chose. 2023, c'est quasi intenable. Et pour le représentant CGT-EDF, Philippe Page-Lemerour, dans tous les cas, il ne faut surtout pas jouer la course contre la montre.
Nous ne sommes plus à 3 mois, 6 mois ou 1 an près. La question ne se pose pas comme ça. La question, elle se pose comment on réalise parfaitement ce qui reste à réaliser du point de vue technique pour pouvoir démontrer que l'EPR a de l'avenir sur le territoire national et ailleurs et mettre la filière nucléaire sur les bons rails pour les décennies à venir.
Alors sur le chantier, 4000 personnes pourraient être au chômage le temps des réparations. Bref, ce chantier, c'est un cauchemar, pour reprendre l'expression d'un très proche de la direction d'EDF. Dans la même veine, un membre du gouvernement nous dit « L'EPR de Flamanville, c'est déjà une catastrophe industrielle ».
Mais au-delà d'EDF et des enjeux pour l'entreprise, quelles conséquences pour nous, consommateurs, Maud ?
Eh bien, on doit fermer d'ici 3 ans nos centrales à charbon, d'ici 1 an les 2 réacteurs de Fessenheim. Donc, sans Flamanville, on va avoir du mal à produire assez d'électricité dans les années à venir. Et puis, autre risque, le coût de l'électricité. Il faudra bien que quelqu'un paye la facture de ses travaux et de ses retards à répétition.
L'incertitude autour de l'avenir de l'EPR de Flamanville. Merci Maud Descamps pour cette enquête signée Europe 1. Va plus loin.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre l'innovation avec Anissa Mbida et ce matin elle va nous parler d'agriculture garantie sans pesticides. À tout de suite Anissa.
Et si vous souhaitez réagir, continuez à le faire sur Twitter, hashtag Europe 1. Bon réveil à tous, il est 7h22. Il est 7h24, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour avec Anissa Mbidanikos.
On a peut-être trouvé le désherbant écologique ultime. Plutôt que déverser des tonnes de produits chimiques, on va utiliser des robots qui vont cibler les mauvaises herbes et les détruire une par une, c'est possible ?
Oui, ils vont désherber à la main comme on faisait à l'époque. Alors, c'est possible grâce au progrès en matière d'intelligence artificielle. Donc, il faut s'imaginer un robot avec une caméra qui est capable de reconnaître tous les nuisibles, tout ce qui pourrait être néfaste aux cultures. On le laisse se promener de façon autonome dans les champs.
Quel son ce robot ?
Et dès qu'il repère une mauvaise herbe, il sort un petit tison et là, il la grille avec une décharge électrique. Et en fait, l'électricité va faire bouillir toutes les cellules de la plante et la tuer sur le coup jusqu'aux racines, sans aucun produit chimique, sans même avoir à l'arracher du sol. C'est une technique qui est développée par la start-up RootWave. Et j'adore l'idée, utiliser de l'électricité plutôt que du glyphosate, par exemple.
Est-ce qu'il existe la même chose pour les insectes ravageurs? Vous savez, ceux qui peuvent justement ronger des récoltes entières?
Alors, pas encore, mais on y travaille. Peut-être qu'un jour, on aura des petits rayons laser qui cibleraient uniquement les insectes nuisibles. Parce qu'en ce moment, il y a un mouvement qui se développe. On l'appelle l'agriculture culture de précision. Et l'idée, c'est de traiter différemment chaque portion de sol, chaque plante, voire même chaque feuille de la plante pour limiter l'usage des produits phytosanitaires. Et bien, avec les robots, on pourrait se passer complètement de ces produits chimiques et laisser les machines s'occuper des récoltes uniquement avec une action mécanique, travailler à l'ancienne, quoi.
Ce sont des techniques qui pourraient se développer, car on le rappelle, la France va baisser progressivement l'utilisation des produits phytosanitaires, avec comme objectif une réduction de 50% autour de
2025.
Merci Anissa Mbida pour l'innovation du jour.
L'innovation du jour avec EDF, se chauffer, s'éclairer, se déplacer. Aujourd'hui, EDF innove au cœur des territoires pour accélérer la transition énergétique. Plus d'infos, edf.fr. Dans un instant, on retrouvera Céline Kahneman pour son journal. Tout de suite, c'est Laurent Cabrol avec la météo.
Mon cher Laurent Cabrol, la fin des orages et des températures, là pour le coup, de saison.
Oui. Les orages, si vous voulez, non. C'est plutôt une pause, plutôt une
petite pause,
une petite respiration, parce qu'ils vont revenir quand même dans la soirée, mais ils ont quand même bien tapé hier soir. Vous avez raison de dire que c'est la fin provisoire à Mende et dans le Cantal à Aurillac, où il a énormément plu à Mende, 40 mm d'eau en une heure. Et donc ce sont vraiment des chutes de pluie très importantes à travers ces orages. Alors aujourd'hui ils vont éclater, mais seulement dans l'après-midi ou en soirée sur le Jura, les Alpes, les vallées alpines, la Corse et les Pyrénées, autrement dit sur les massifs montagneux. On n'entourera pas sur le sud-ouest où les brumes sont présentes, mais le soleil n'est pas loin. Un ciel nuageux avec quelques gouttes sur le Poitou-Charentes, le Berry, le Morvan, la Franche-Comté. Il y aura quand même des orages sur le Limousin, et puis nous aurons le long de la Manche, comme en Champagne-Ardenne, Lorraine, région parisienne, de la Loire, un temps globalement ensoleillé, avec un petit vent de nord-est qui est sympa, parce qu'il souffle autour de 40 km/h et rafraîchit l'atmosphère. Alors si vous hésitez en ce moment, chers amis, entre la bicyclette, la mobylette ou la voiture, Moi, je vous conseille la bicyclette si vous êtes courageux, ou la mobylette, et puis après, ou à pied carrément. Mais là, vous avez vraiment une journée qui est agréable parce que les températures seront respirables. Hein, 23 à Caen, 24 à Lille, 26 à Paris, 27 à Belfort, 28 à Nancy, 29 à Nantes, 30 à Toulouse, 31 à Limoges, et puis après, 32 à Lyon, là ça commence à être chaud. Et puis il y a toujours cette poche qui reste, là, Avignon, Nîmes, 36-37, c'est incroyable. C'est, depuis plusieurs jours, nous avons ces 36-37 à Avignon et Nîmes qui n'arrivent pas à se libérer.
Voilà. On les embrasse, les Nîmois et les Nîmoises. Merci beaucoup, à tout à l'heure, mon cher.
À suivre, Nikos.
Christine Lagarde, qui va prendre la tête de la Banque Centrale Européenne. Ce n'était pas le scénario initial. Déjà, au FMI, elle était arrivée par surprise, après l'affaire DSK. L'édito à ne pas manquer de Jean-Michel Apathy à 7h40. 7h43, Axel de Tarlé, le gros coup de L'Oréal, le groupe qui cartonne en Asie, arrive même à vendre des parfums à des gens qui ne se parfument pas. Explication de texte avec Axel dans quelques instants. Puis à 7h45, 70 femmes ont perdu la vie depuis le début de l'année sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Le gouvernement agit, mais pas assez vite, dénoncent les associations. Dans un quart d'heure, je reçois Anne-Cécile Melfer, elle est présidente de la Fondation des femmes. Excellent réveil à tous sur Europe 1.
Attendez Nico, je veux parler à mon enceinte. Ok, je veux écouter le brief.
Vous avez demandé les infos.
Ok. Oh, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard moi.
Je suis stupéfait de votre entrée en la matière.
Le brief Europe 1, c'est votre flash d'information disponible, n'est-ce pas, sur toutes les enceintes connectées. Plusieurs actualisations par jour et un format magazine pour le week-end. Le brief Europe 1 est disponible sur les enceintes connectées, mais aussi sur europe1.fr et notre application mobile. Nous sommes le mercredi 3 juillet, il est 7h30.
7h, 9h. Nico Saliagas sur Europe 1.
Il est même 7h29, il est même un peu plus tôt. Et le journal est présenté, ce sera plus de temps pour vous parce que vous l'aimez, par Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Du nouveau et des précisions ce matin dans l'enquête sur la fuite d'un sujet du baccalauréat. Hier, la police a interpellé 13 personnes en Ile-de-France, mais aussi à Marseille. 13 lycéens placés en garde à vue qui ont eux-mêmes passé le bac cette année. Guillaume Biais.
Ils ont tous 17 ou 18 ans et pensaient attendre tranquillement les résultats du bac dans quelques jours. Mais hier, c'est à un oral inattendu qu'ils ont eu droit. Interro surprise, en garde à vue, dans les locaux de la police judiciaire. Pas le temps de réviser pour ces 13 lycéens, interpellés principalement en région parisienne ainsi qu'à Marseille. Ils sont soupçonnés d'avoir joué un rôle dans la fuite du sujet de mathématiques. La photo du document avait circulé de portable en portable plusieurs heures avant l'épreuve, via des applications de messagerie instantanée, laissant même à certains le temps d'écrire un corrigé et de le diffuser de la même manière. Les enquêteurs cherchent à savoir d'où ces candidats ont pu recevoir le sujet et ce qu'ils en ont fait, même s'ils ne sont pas forcément eux-mêmes à l'origine de la fuite. L'enjeu pour ces lycéens est important. Si leur responsabilité est retenue, les conséquences peuvent être lourdes, jusqu'à une peine de prison, généralement avec sursis, mais surtout l'interdiction de passer un examen pendant 5 ans.
Guillaume Biais du service police-justice d'Europe 1. Et à deux jours des résultats du bac, des professeurs n'avaient toujours pas transmis leur copie hier midi. Date limite d'envoi, manière de protester contre la réforme Blanquer. 126 000 copies seraient toujours retenues par les grévistes. Ce matin, une soixantaine de personnes vont déposer une plainte collective auprès du parquet de Nantes. Plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et violence volontaire après l'intervention de policiers le soir de la fête de la musique sur un quai de Loire. Une dizaine de personnes étaient tombées à l'eau depuis ce soir-là, plus aucune nouvelle de Steve, un jeune homme de 24 ans porté disparu. Raymond Barre avait un compte en Suisse, 7 millions d'euros, argent dont ses enfants auraient hérité. C'est le canard enchaîné qu'il révèle. Une information judiciaire est ouverte depuis avril 2016 pour des soupçons de blanchiment de fraude fiscale.
Pour la première fois, deux femmes élues, et plutôt nommées à des postes majeurs au sein de l'Union européenne.
Oui, Ursula von der Leyen, actuelle ministre allemande de la Défense, va remplacer Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission en octobre prochain. Et Christine Lagarde hérite de la Banque Centrale Européenne. On connaît depuis hier soir d'ailleurs le nom de son remplaçant provisoire à la tête du FMI, l'américain David Lipton, actuel numéro 2 du Fonds Monétaire International. Pendant ce temps-là, vous avez peut-être vu cette scène surprenante hier au Parlement européen à Strasbourg. L'ensemble des 29 députés britanniques du Brexit parti ont tourné le dos lorsque l'hymne européen a retenti dans l'hémicycle. Au total, ils sont 73 à occuper un siège à Strasbourg provisoirement, entre ceux qui souhaitent sortir de l'Union et les pro-européens qui espèrent encore. Anaïs Cordoba.
C'est une rentrée au goût amer pour Bill Newton-Dunn. Ce libéral-démocrate siège au Parlement européen depuis 1979. En 40 ans, il n'a perdu son siège que deux fois aux élections. Mais bientôt, ce pro-européen risque de le perdre pour toujours.
C'est potentiellement ma dernière session au Parlement européen. J'ai été engagé dans la construction d'une Europe unie et nous avons fait beaucoup de chemin ces 40 dernières années. Donc si le Brexit devait arriver, j'aurais beaucoup de chagrin. L'Europe continuera, mais les Britanniques n'y auront plus aucune voix.
À l'opposé de Bill, Lucy Harris. Issue du nouveau Brexit Party, elle veut une sortie rapide de l'Union européenne. Elle fait sa première rentrée dans l'hémicycle, pleine d'enthousiasme et de détermination.
On sera une épine dans leur pied. On votera contre la plupart des propositions de loi. C'est aussi une plateforme pour exprimer nos inquiétudes sur la démocratie au sein de l'Union. On donne aussi une voix aux Britanniques. Il s'agit de dire que c'est inacceptable et de maintenir la pression.
Si les Britanniques sortent le 31 octobre comme prévu, 27 de leurs 73 sièges iront à d'autres pays, dont la France. Les autres seront réservés à de futurs États membres. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
La capitaine du Sea-Watch a été libérée par la justice italienne hier soir après la levée de son assignation à résidence. L'Allemande de 31 ans avait été arrêtée le week-end dernier après avoir accosté de force sur l'île de Lampedusa avec 40 migrants à bord. C'est une loi symbolique mais historique qui a été définitivement votée hier au Sénat. La fessée, les petites tapes et toute autre forme de violence sur son enfant est désormais interdit en France. 85% des parents disent pourtant avoir déjà infligé une telle correction à leur enfant. Qu'est-ce que ce texte va changer dans notre vie quotidienne ? Réponse avec Virginie Salmen.
Ni gifle, ni fessé, un père ou une mère n'ont plus de droit de correction sur leurs enfants. C'était une jurisprudence. Elle tombe avec cette loi qui affirme que l'autorité parentale s'exerce sans violence psychique ou psychologique. Ça veut donc dire aussi qu'il est désormais interdit de crier sur son enfant, de l'humilier, le dévaloriser, de lui dire par exemple « tu es nul, tu n'arriveras jamais à rien » et interdit de lever la main sur lui. Alors cette loi ne s'appliquera pas via des sanctions, mais par l'éducation des parents à de meilleurs comportements, puisque la nocivité des châtiments corporels et verbaux est désormais démontrée par les neurosciences. Donc la suite, ce pourrait être par exemple de grandes campagnes de prévention, des messages sur les briques de lait ou les cahiers d'écoliers, mais aussi des affiches chez le médecin, des cours comme pour la préparation à l'accouchement. On préparerait les parents à exercer leur autorité sans violence. Et à partir d'aujourd'hui, et pour la première fois en France, les enfants sont donc considérés comme des êtres de droit, au même titre que les adultes.
Virginie Salmen, dans l'actualité ce matin, plus aucune vigilance orange pour les orages, mais hier en Savoie, une coulée de boue a fortement endommagé une ligne TGV entre la France et l'Italie. La ligne va être fermée pendant plusieurs semaines entre Saint-Jean-de-Maurienne et Modane. Et hier soir, il restait encore 15 000 foyers privés d'électricité en Isère, Savoie et Haute-Savoie.
Allez, plus que quelques jours et les grandes vacances vont enfin pouvoir commencer.
Et oui, vendredi, les élèves vont ranger leur cartable pour souffler, se reposer. Les parents tenteront de déconnecter avec le travail. Certains chanceux sont déjà au soleil, au bord de la mer. Pour vous donner un avant-goût, écoutez ce reportage de Frédéric Michel.
Du monde dans le Vieux-Nice, du monde sur les plages, des restaurateurs qui ont le sourire. Les vacanciers sont enfin arrivés. Pauline est guide et propose des visites gratuites de la ville.
Ils sont là. Il y a beaucoup de groupes déjà. Amérique, Angleterre, Allemagne, Italie, un peu partout.
Écosse, de Milan. Nice, c'est magnifique.
Américaine.
Lorraine est californienne. Elle a réservé un appartement pour 10 jours avec une amie.
La Nice représente la vacance. Relaxation. J'aime Nice. C'est la meilleure destination en France.
Chez nous, les vacances scolaires, les grandes vacances débutent samedi. Peu de familles françaises, donc, pour l'instant, dans les campings et résidences d'été. Pour ce couple du Morbihan, les vacances avec les enfants, ce sera dans une semaine. Ce week-end, il a participé à l'Ironman, un triathlon.
Les enfants sont encore à l'école, les grands-parents les gardent spécialement.
On va aller se prendre là un pain bagna typique, et puis après on va se retourner aussi à la plage, profiter, voilà. Flâner, puis une petite glace dans l'après-midi pour se rafraîchir,
voilà, ça sera parfait. On va faire nos vacanciers.
Et après une forte embellie en 2017, la fréquentation touristique s'est tassée l'an dernier. Les professionnels espèrent cet été un sursaut.
Le reportage a signé Frédéric Michel. Magnifique. Les Américaines disputeront dimanche la finale du Mondial féminin. Elles ont battu hier soir l'Angleterre de Buzyn et elles seront confrontées soit aux Pays-Bas, soit à la Suède qui s'affrontent ce soir à 21h.
Vous savez quoi, Céline Kallmann ?
Non, dites-moi.
Votre
tout.
Perfecto va me manquer.
Ah, c'est vrai, c'est vrai. Je peux vous le donner si vous voulez. Il est un peu usé.
Je rentre pas dedans. En tout cas, si vous voulez le voir, c'est sur Europe1.fr pendant quelques secondes encore, le perfecto de Céline Kallmann. C'était le journal de 7h30.
Puis demain merci. Encore, ouais.
Mais évidemment, mais vous le mettez demain.
Bah, si vous voulez, c'est vous faites.
Perfecto. Merci beaucoup.
Et vous pouvez continuer à réagir sur les réseaux sociaux, nous parler pourquoi pas du perfecto de Céline Kallmann. Vous pouvez réagir comme Sophie, Olivier, Marie ou encore Camille qui sont avec nous. Hashtag Europe 1.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la politique avec vous, Jean-Michel Apathy.
Oui, bonjour Nikos, on va parler de Christine Lagarde, qui sera donc la prochaine présidente de la Banque Centrale Européenne. L'apothéose d'une carrière tissée...
Toujours sur les bons coups.
Ah mais alors, mais plus que ça, c'est une carrière tissée par la chance et le hasard. Plus chanceuse que Christine Lagarde, ça n'existe pas. Il y a des anecdotes qu'on a oubliées et que je vais vous raconter.
Et oui, parce que la chance, ça se provoque aussi. Axel de Tarlé.
Moi, je vais vous parler du gros coup de L'Oréal dans les parfums. L'Oréal qui arrive à vendre des parfums à des gens qui ne se parfument pas.
Ça, c'est fort. Et ils en font quoi ?
Ah ben vous allez voir, ils les mettent dans leur salle de bain, ils les regardent.
Vous êtes trop fort. Apathy Tarlé dans un instant sur Europe 1.
Il est 7h37, bon réveil. Il est 7h39, Nico Saliagas, on retrouve Jean-Michel Apathy.
Cher Jean-Michel, Christine Lagarde, directrice générale du FMI, devrait prendre donc la tête de la Banque Centrale Européenne. C'est l'apothéose, vous l'avez dit, pour une carrière qu'on peut qualifier de très singulière.
Ah, moi j'ai dit hasardeuse, parce que vraiment c'est le hasard qui a guidé la vie professionnelle de Christine Lagarde. Juin 2005, Christine Lagarde a 49 ans, elle dirige l'un des plus grands cabinets d'avocats d'affaires à New York et le magazine Time l'a repérée à l'époque comme l'une des femmes les plus influentes du monde. Juin 2005, elle reçoit un coup de fil de Dominique de Villepin qui la connaît pas et qui lui dit « Est-ce que vous voulez entrer dans mon gouvernement ?» Elle est très surprise et elle dit « Est-ce que je peux réfléchir ?» Oui, dit Dominique de Villepin qui faisait jamais les choses lentement, je vous rappelle dans une heure. Hop, Christine Lagarde accepte et la voilà ministre du Commerce extérieur. Une ministre assez banale dont on n'entend pas beaucoup parler pendant deux ans. Mai 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République. Il doit faire un gouvernement. Les hommes, s'ils le pouvaient, ne feraient qu'un gouvernement d'hommes. Il faut mettre quelques femmes. Donc il garde Christine Lagarde, qu'il connaît peu, qu'il n'aime pas particulièrement. Et il la nomme, tenez-vous bien, à l'agriculture et à la pêche. Alors s'il y a bien quelqu'un qui ne connaît rien à l'agriculture et à la pêche, c'est Christine Lagarde. Et elle a quand même l'air plutôt citadine que paysanne. Mais enfin, elle y va. Juin 2007, un mois après, coup de tonnerre, les électeurs de la deuxième circonscription de la Gironde, alors ceux-là, il fallait aller les chercher, battent Alain Juppé aux élections législatives.
Ouais.
Et Alain Juppé est obligé de démissionner de son poste de ministre de l'écologie. Et pour le remplacer à l'écologie, Nicolas Sarkozy va chercher Jean-Louis Borloo qu'il venait de nommer à l'économie. Et pour remplacer Jean-Louis Borloo à l'économie, eh ben, il va chercher Christine Lagarde qu'il nomme à Bercy. Et c'est comme ça que Christine Lagarde, par la plus grande chance et le plus terrible des hasards, devient ministre de l'économie. Et quand elle commence à Bercy, tout va de travers. Elle ne fait que des gaffes. Elle raconte n'importe quoi. Alors il y a plusieurs anecdotes, j'en ai gardé une, puisque ça s'est passé sur Europe 1, 2 septembre 2007. Grand rendez-vous, que dit Christine Lagarde ? Mais alors, elle ne réfléchit pas une seconde. Un plan de rigueur ? Mais bien sûr qu'il y aura un plan de rigueur.
Bien sûr que nous préparons un plan de rigueur, mais ce plan de rigueur, il est destiné à la fonction publique pour l'essentiel.
Premier ministre François Fillon est fou de colère. Nicolas Sarkozy veut la virer, et pendant des mois, il lui en veut terriblement. Et là-dessus, autre hasard, se déclenche la crise des subprimes. Et Christine Lagarde, qui connaît très bien la psychologie américaine, qui parle très bien l'anglais, alors ça bluffait Nicolas Sarkozy à l'époque, peut-être qu'il a un peu progressé en anglais depuis, et puis qui est une grosse travailleuse, rend des grands services au gouvernement. Et du coup, elle reste à Bercy. Mai 2011, Christine Lagarde est sur la jante. Elle dit à tout le monde, enfin en privé du moins, la politique ras-le-bol, je veux arrêter. Et qu'est-ce qui se passe le 15 mai 2011 ? Ceci.
Europe 1, édition spéciale.
Voilà, on revient en détail sur ce coup de tonnerre, pour reprendre les mots de Martine Aubry. Dominique Strauss-Kahn, inculpé ce matin à New York.
Et voilà, Christine Lagarde, qui en a marre de la politique française, va aller à Washington pour devenir directrice générale du FMI. Le FMI, qui est la dernière marche, qui va l'amener à BCE.
En fait, elle ne demande jamais rien.
Rien, rien. Et elle a tout comme ça, vraiment, elle veut rien, mais elle a tout. Eh bien, si quelqu'un écrit un jour un livre sur la chance et le hasard, il y aura un énorme chapitre sur Christine Lagarde, nouvelle présidente de la Banque Centrale Européenne.
Faites-le.
Je l'écris.
Je vous ferai la préface. Axel de Tarlé, L'Oréal met la main sur les parfums Mugler et Azzaro et les géants français. Et est désormais le plus grand parfumeur du monde. Hein.
Voilà, L'Oréal possède déjà de nombreux parfums, hein, Lancôme, Yves Saint Laurent, Armani, et donc le groupe là ajoute Thierry Mugler et Azzaro. Alors Clarins, le vendeur, explique que L'Oréal saura mieux faire vivre ces deux marques qui pèsent tout de même déjà 1,5 milliard d'euros. Et pour cause, dans ce métier du parfum, ce qui compte, c'est la puissance du marketing. Car ce qui fait vendre un parfum, ça n'est pas le jus, ça n'est pas le liquide, qui coûte d'ailleurs, figurez-vous, à peine quelques euros. Ce qui compte, et ce qui coûte cher dans le parfum, c'est le rêve qui va autour. Et ça commence, le rêve, par le flacon, très important, très cher d'ailleurs. Parce que oui, on ne va pas vendre du parfum dans une bouteille en plastique. Mais surtout, ce qui coûte le plus, c'est la star. C'est l'égérie qui va porter la marque avec toute la campagne de publicité qui va autour. Et ça, ce phénomène de marketing, c'est encore plus vrai en Asie, en Chine et au Japon, Pourquoi ? Eh bien parce que figurez-vous que dans ces pays, les gens ne se parfument pas, ou très peu. Se parfumer au Japon, vous voyez, c'est exposer une odeur, c'est vécu comme une agression.
Ah
et
bon
donc, oui, non, ça ne se fait pas du tout. Donc dans ces pays, on achète du parfum pour se l'offrir, comme on offre une œuvre d'art ou un bibelot qu'on va ensuite exposer dans sa salle de bain, dont on sera très fier, mais sans jamais l'ouvrir. D'où, vous voyez, l'importance de la marque du parfum, la marque qui doit véhiculer du rêve. Ben ça, c'est ce qu'on appelle le marketing. Et L'Oréal est un as, un champion mondial du marketing.
Mais Axel de Tarlé, c'est très bien de vendre du rêve, mais en fait, il faut aussi vendre du concret.
Alors oui, alors L'Oréal, quand même, en Asie, vend aussi des crèmes et des cosmétiques. Là, ils sont d'ailleurs, c'est leur premier marché, parce que vous savez, alors les Chinois, ça, pour le coup, ils sont très soucieux de leur peau qu'ils veulent élastique, etc. Et donc, ils sont, et ce, dès l'âge de 20 ans. Donc L'Oréal, l'Asie, c'est ainsi devenue la première région du monde pour L'Oréal, devant l'Amérique du Nord. Donc en Asie, ils vendent des, alors, beaucoup de crèmes. Hein. Mais voilà un secteur, quand même, le luxe, les cosmétiques, où les Français cartonne, parce qu'on pourrait bien sûr citer également LVMH. D'ailleurs, si vous regardez la Bourse de Paris, la plus grande entreprise, pendant longtemps, ce fut Total, ben c'est fini. Hein. Maintenant, la plus grande entreprise de la Bourse de Paris, c'est 1. LVMH, 2. L'Oréal. Total, le pétrole, n'est plus que 3e. Et après tout, c'est bien normal, parce que la France est bien plus connue dans le monde pour ses parfums et pour le luxe que pour son pétrole.
Merci beaucoup Axel de Tarlé, c'était le Zoom Éco.
Nico Saliagas sur Europe 1.
En France, en 2019... une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Ce sont des chiffres qui ne baissent pas, et ce, malgré l'action du gouvernement. Dans un instant, je reçois Anne-Cécile Melfer, elle est présidente de la Fondation des Femmes. On parlera de tout ça juste après une page de publicité.
Il est 7h45. Et il est 7h46, les principaux titres de l'actualité à Nanterre ce matin, Nico Saliagas.
Après avoir annoncé les noms des 4 nouveaux dirigeants des instances européennes, c'est au tour du Parlement européen d'élire son président. Jusqu'à 4 tours, des votes sont possibles dans cette élection. Édouard Philippe se rend en Corse aujourd'hui et demain. Le Premier ministre doit s'entretenir avec Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni. Les élus nationalistes demandent notamment l'inscription de la Corse dans la Constitution ainsi que la création d'un statut de résident. 13 candidats au bac interpellés hier et placés en garde à vue dans l'enquête sur les soupçons de fraude qui concernent une épreuve de mathématiques. Tous étaient candidats à l'épreuve le mois dernier. Puis le coup d'envoi à 21h de la seconde demi-finale de la Coupe du Monde féminine, Pays-Bas-Suède. L'équipe qui l'emportera affrontera donc en finale les Américaines qui ont éliminé hier soir les Anglaises de 2-1.
Europe 1. Aujourd'hui encore, une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. En dépit des efforts entamés par les pouvoirs publics, ce chiffre ne baisse pas. Samedi, pour la première fois, un collectif de familles et de proches de victimes de féminicides organisera un grand rassemblement à Paris. Il demande au gouvernement d'agir plus vite et plus fort. Nikos, vous recevez ce matin Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des Femmes.
Bonjour Anne-Cécile.
Bonjour.
Depuis le 1er janvier, on en est à 70 femmes décédées sous les coups de leur conjoint ou d'ex-compagnon. Le premier coupable, c'est l'homme qui tue, évidemment, mais vous dites qu'il y a une chaîne de responsabilité. Vous parlez de non-assistance en personne en danger.
Oui, la non-assistance à personne en danger, c'est ce qui peut caractériser le fait que quand une personne est clairement en danger de mort, hein, puisque ces femmes, elles sont menacées de mort par leur conjoint ou ex-conjoint, et quand elles viennent demander de l'aide et qu'on les renvoie chez elles, on les expose à un danger très très grave. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'entre elles meurent. Si, par exemple, vous allez aux urgences, à l'hôpital, et qu'en sortant des urgences, vous mourrez, il va y avoir une enquête, il va y avoir une chaîne de responsabilité. Et là, nous, ce qu'on voit avec les familles, c'est que bien souvent... Quand l'ex-conjoint en arrive à tuer sa compagne, il n'y a pas forcément, même pas du tout d'ailleurs, une enquête pour voir ce qui s'est passé. Donc c'est ça qu'on dénonce aujourd'hui.
Mais les femmes hésitent encore à en parler, même les familles gardent souvent le silence. On a l'impression que c'est tabou, qu'on dit de toute manière, elle est à sa façon un peu coupable. On entend ce genre de discours.
Ouais,
ils sont réels dans le quotidien ?
Oui, alors il y a d'un côté la société qui a encore du mal à prendre au sérieux ce sujet, qui ne connaît pas d'ailleurs forcément les mécanismes des violences faites aux femmes. Et puis, pour les femmes elles-mêmes, parfois, comme il y a beaucoup de violences psychologiques qui précèdent et qui accompagnent les violences physiques, et puis qu'une fois qu'il y a des violences physiques, monsieur redevient tout doux comme un agneau et c'est la lune de miel, il essaye de la reconquérir. En fait, elles retombent aussi, parfois, dans ces situations-là, et donc elles se sentent elles-mêmes idiotes, elles sont manipulées, et donc en fait, elles se sentent coupables d'y retourner aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre pour mieux réussir à les aider à s'en sortir, à sortir de cette emprise-là qui accompagne toujours les violences physiques.
On n'a pas la grille de lecture. À quel moment on sait qu'une violence psychologique peut aboutir sur une violence physique ?
Bah, les violences psychologiques sont de toute façon en soi déjà des violences graves, donc il faut en sortir. Et alors, quand est-ce qu'on le sait ? Bah, malheureusement, c'est au premier coup. Premiers coups, nous on dit toujours, les premiers coups, il faut partir au premier coup parce qu'en fait, après, ça devient des cycles qui se répètent. Et un homme violent, en fait, est un homme violent, donc il faut s'en échapper.
La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui sera l'invitée politique de David Doucan tout à l'heure à 8h15, vient d'envoyer des consignes à tous les parquets de France. L'autre problème que vous soulignez, c'est qu'il y a une inégalité régionale dans la prise en compte des violences qui est faite aux femmes. Donnez-moi un exemple.
Alors, un exemple, en ce moment, par exemple, on sait qu'à Versailles, c'est très compliqué d'avoir des ordonnances de protection parce que les juges aux affaires familiales, là-bas, trouvent que peut-être c'est pas très efficace. Dans d'autres territoires, il y a des expérimentations. En Seine-Saint-Denis, par exemple, c'est un territoire qui est pilote sur tout un tas de mesures. Donc, ils ont innové, ils font des choses très, très bien. Donc en fait, en fonction de là où vous allez, malheureusement, de là où vous habitez, malheureusement, en fait, vous n'allez pas être protégé de la même manière. Et ça, c'est assez insupportable.
Oui, et la fonction de là où vous allez, c'est-à-dire que chaque lieu n'est pas nécessairement... C'est pas ce qu'on croit aussi par rapport aux violences qui sont faites aux femmes ?
Alors oui, les violences faites aux femmes, déjà, elles existent partout. Il n'y a pas d'idée de...
Il n'y a pas de quartier.
De toute façon, quand on regarde le profil des 70 femmes qui sont mortes depuis le 1er janvier, il y a des chefs d'entreprise, il y a des femmes qui étaient femmes de ménage, il y a des mères au foyer, il y a de tout malheureusement. La violence faite aux femmes, elle est dans tous les milieux. Et par contre, voilà, en fonction des régions, on a des dispositifs qui sont plus ou moins bien mis en place. Donc nous, on encourage Madame Belloubet qui a fait là un travail formidable depuis quelques semaines. On est plutôt très enthousiaste parce qu'elle s'est saisie du sujet, à aller plus loin et à même à demander des objectifs chiffrés à ses équipes, c'est-à-dire de dire il faudrait que demain il y ait 20 000 ordonnances de protection qui soient données par an, des objectifs comme ça pour qu'on puisse suivre vraiment et que ce soit pas que de l'incantatoire.
Puis elle a saisi l'inspection générale de la justice pour faire la lumière sur d'éventuelles fautes. Selon vous, la justice a une responsabilité dans certains féminicides ?
Oui. Alors la justice, je sais pas, mais en tout cas il y a des juges qui clairement n'ont pas mis certains dossiers en haut de la pile.
Il y a des manquements, vous voulez dire ?
Il y a des manquements, il y a des défaillances. Et la saisine de l'inspection générale de la justice, ça fait aussi partie de nos demandes et on aimerait que du côté du ministère de l'Intérieur, il y ait ce même effort pour voir dans les commissariats est-ce que lorsqu'une femme est morte, a été assassinée, est-ce qu'il y a eu également des manquements et des défaillances ? Pourquoi est-ce qu'on demande ça ? Tout simplement parce qu'il ne faut pas qu'on répète les mêmes erreurs. C'est comme ça qu'on va réussir à sauver des vies, parce qu'on peut sauver des vies. La plupart du temps, en fait, ces femmes, on savait que ça allait se passer. Elles avaient prévenu qu'elles étaient en danger. Et on sait en plus que le moment où la violence elle éclate, c'est le moment où elles vont porter plainte et le moment en fait, où elles vont quitter leur conjoint. C'est là en fait, où il devient fou furieux et il passe à l'acte. Donc on le sait tout ça.
Et c'est là où il faut les protéger.
C'est là où il faut être très 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 attentif surtout et ne rien louper. Donc c'est pour ça qu'on demande des analyses de ce qui se passe quand elles meurent, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. C'est-à-dire, en fait, elles meurent et puis elles sont assassinées, puis on passe à... Oh là, c'est triste, et puis on passe à autre chose. Donc là, si on demande ça, c'est pas de la vengeance. Si on demande ça, c'est parce qu'en fait, on veut éviter que d'autres familles vivent les mêmes drames, que d'autres femmes soient assassinées. On veut sauver des vies.
Vous, Anne-Cécile Melfer, vous réclamez un Grenelle des violences faites aux femmes. Pourtant, Emmanuel Macron a fait de la cause des femmes la grande cause nationale de son quinquennat. Marlène Schiappa est très active, qui est en charge du dossier. Elle organise des campagnes de communication pour sensibiliser à la violence. Il y a des plateformes de signalement, des hébergements d'urgence. C'est pas suffisant, selon vous ?
Il y a 70 femmes qui sont mortes depuis le 1er janvier, donc il y a un...
Tolérance zéro.
Il y a un effort, mais en fait, nous, ce qu'on veut, c'est des résultats. Et pour accompagner cette grande cause, rien de tel qu'un grand moment dans lequel on rassemble tous les acteurs impliqués dans la protection des femmes victimes de violences, qu'ils en ressortent avec des objectifs chiffrés sur ce qu'il faut faire, et que tous les ministères, y compris voilà, Castaner, Belloubet, Buzyn à la Santé, tous et tout ensemble, mettent le dossier des féminicides en haut de la pile.
Ça, c'est la politique. Après, il y a la réalité.
il y a les sujets tabous, il y a la société, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Et puis, il y a les gens, il y a l'opinion publique. Samedi, vous allez, pour la première fois, un collectif de familles, de proches, de victimes de féminicide, appelé un rassemblement Place de la République à Paris. C'est un collectif qui est soutenu notamment par Muriel Robin, qui a pris position, notamment dans une fiction, il y a pas longtemps, à la télévision. Au-delà des services de l'État, c'est l'opinion publique que vous voulez toucher, alerter ?
Oui, c'est l'opinion publique et grâce à l'opinion publique d'ailleurs, plus les gens se mobilisent, plus ce sera facile de mobiliser les politiques. Nous, ce qu'on voit, c'est que les Françaises et les Français sont plutôt en avance en fait par rapport aux institutions et aux politiques. Et c'est ce qu'on aimerait aussi montrer samedi. Muriel Robin est très très active, elle suit le collectif depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Et puis ce collectif, c'est vraiment inédit que des familles se mobilisent. C'est très difficile pour elles, il y a la peine qui est immense. Et puis pour beaucoup d'entre elles, il y a encore des procédures en cours. Donc c'est compliqué de parler, pourtant elles le font, elles ont ce courage-là. Donc effectivement, on invite toutes et tous à nous aider, à les aider, à les soutenir et à venir montrer leur soutien à leur démarche.
Merci Anne-Cécile Malfer d'avoir été notre invitée ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fondation des Femmes.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre dans une petite minute, aux États-Unis, un docteur qui chante à l'oreille des nouveau-nés. C'est une belle, jolie, petite histoire. Oui, belle et jolie. Il y a tout. C'est Jean-Philippe Ballas, évidemment, tout de suite.
Avec Nikos Aliagas sur Europe 1, il est 7h55. Il est 7h56, l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Docteur, est-ce que vous chantez ? Ce matin, avec Jean-Philippe Ballas, on va partir aux États-Unis.
Avec un drôle d'endroit pour une chorale. Imaginez une salle d'accouchement avec une jeune maman épuisée qui vient de donner naissance à un petit garçon, un jeune papa ému en tenue stérilisée, et soudain, toute l'équipe médicale autour qui donne de la voix.
Happy birthday to you. Happy birthday.
Et bah oui, après tout, c'est son tout premier anniversaire à ce petit bout de chou. Il a déjà droit à sa petite chanson, rien que pour lui. Ça vous étonne ? Bah figurez-vous que c'est la tradition dans cette maternité de Pittsburgh, instaurée par ce monsieur en blouse blanche et au sourire contagieux. Je vous présente le docteur Andrew Jaja. Et son truc à lui, c'est de chanter en toutes circonstances, surtout après une naissance. Il le fait depuis 40 ans, soit plus de 8000 nouveaux-nés, dont cette petite fille dans les bras de sa maman.
And I think to myself, what a wonderful world.
Je chante pas.
Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Il est là, il est là.
Yeah?
Il est là, le doc.
Oh yeah. Oh welcome yeah. To our wonderful world, Talia.
Bienvenue, petite fille. Alors, chaque fois, je prends un instant parce que je m'adresse là à une future grande personne. Là, c'est le médecin qui parle. Et on peut voir d'ailleurs sur les images que les bébés restent tranquilles, parfois même captivés par le son de sa voix. Alors, c'est aujourd'hui l'heure de la retraite pour le docteur Andrew Jaja. Mais l'administration a décidé de marquer le coup en créant une journée spéciale à son nom chaque année.
Génial.
Un jour pour se dire que, quoi qu'il arrive, c'est un monde merveilleux.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Avec des petites histoires comme ça, évidemment qu'il est encore meilleur, le monde. Bravo Jean-Philippe Ballas, et à demain.
À suivre le journal de David Doucan, tout de suite, on retrouve Laurent Cabron-Nicos pour la météo.
Alors Yvette, comment aujourd'hui le ciel français, merveilleux ou pas ?
Non, il est pas mal, sur une bonne partie de la France, toutes les régions qui bordent la Manche et la mer du Nord, la région parisienne, les pays de la Loire, la Lorraine, le centre. Non, pas le centre, non, j'enlève le centre, le nord. Dans toutes ces régions, nous aurons là un soleil omniprésent. Le centre sera, disons, souvent nuageux, comme le Poitou-Charentes, la Franche-Comté, le Morvan, une partie donc de la Bourgogne. En ce qui concerne le Limousin, les orages seront là, alors des orages aussi sur l'ensemble des massifs montagneux, hein, quels qu'ils soient, dans le courant de l'après-midi, et des températures qui vont s'échelonner entre 19 et 30 degrés en général. Enfin, la moyenne nationale, c'est entre 24 et 30, et puis des plus chaudes, Avignon et Nîmes, 36-37 comme je disais tout à l'heure. Quant à les plus fraîches, c'est Saint-Brieuc avec 19. Je veux simplement dire que j'ai un petit œil, même un gros œil sur la semaine prochaine pour savoir ce qui nous est réservé. c'est pas folichon, ben, je dois vous le dire. On va quitter la canicule, on va quitter un peu l'été, et j'ai l'impression que ce sera quand même assez mitigé dans son sens le plus négatif. Voilà. Avec pas mal d'averses, avec peut-être des températures largement en baisse. Mais tout ceci, c'est juste pour vous faire peur, chers amis. Après, ça y est.
Ça marche.
Maintenant, vous avez eu peur.
Une tête de Doucan.
Vous avez eu peur, j'enlève rien, mais je nuancerai.
Il est effrayé, David Doucan. C'est-à-dire que tous les gens qui ont eu la canicule en travaillant et qui vont avoir la pluie et le mauvais temps alors qu'ils seront en vacances, ont juste envie de repartir loin où il y a du soleil. Merci beaucoup.
Merci, si je peux dire.
Et merci à vous de nous avoir choisis en ce mercredi matin. Merci. Il est 8h. Bon réveil. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Bonjour David Doucan.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité.
Deux femmes, une française, une allemande, pour diriger l'Europe. C'est une première historique. Christine Lagarde va devenir présidente de la Banque Centrale Européenne. Ursula von der Leyen présidera la Commission.
Et l'analyse de Vincent Herouet, juste après votre journal.
Enquête Europe 1 dans un instant. Les députés, les Républicains, vont-ils faire bloc contre la PMA, la procréation médicalement assistée pour toutes? Vous serez surpris, les choses ont bien changé à droite depuis la bataille contre le mariage pour tous en 2013. Et puis, un documentaire qui sort aujourd'hui en salle. Et si le rock'n'roll n'avait pas été inventé par des hommes, mais par des femmes? Nous retrouverons notre spécialiste cinéma Mathieu Charrier à la fin de cette édition.
Et puis à 8h15, vous recevrez la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. David Doucan.
Europe 1. Notre grande responsabilité historique, c'est que la France et l'Allemagne ne sont pas seulement au cœur, mais aussi le moteur. Jamais oublier ça. Si on regarde aujourd'hui 50 ans de traité, c'est exceptionnel.
Ursula von der Leyen, parfaitement francophone et francophile. Archive d'une interview avec Jean-Pierre Elkabbach en 2013 sur Europe 1. L'actuelle ministre de la Défense d'Angela Merkel va donc devenir la femme la plus puissante de l'Union européenne en accédant à la présidence de la Commission. Son portrait, signé de notre correspondante à Berlin, Hélène Kohl.
Ursula von der Leyen est née à Bruxelles, où son père était fonctionnaire européen. Elle suit l'école en français, et même si ensuite l'anglais a pris le dessus, elle est encore capable de s'exprimer dans notre langue. Elle étudie d'abord l'économie à Londres et aux États-Unis avant de reprendre ses études et devenir gynécologue à l'hôpital de Hanovre, où sa famille a des racines aristocrates depuis le XVIIe siècle. Finalement, c'est dans les pas de son père qu'elle va faire carrière. Il est alors président de la région et la propulse à la CDU. Petite et frêle, elle gère de front ses grandes ambitions politiques et sa famille nombreuse, elle a 7 enfants. Angela Merkel la remarque et va lui donner sa chance au niveau national. Elle l'a prise dans chacun de ses 4 gouvernements, d'abord comme ministre de la Famille, puis ministre du Travail et enfin de la Défense. Elle se casse les dents sur ce dernier poste, empêtrée dans des soupçons de favoritisme et de corruption, mauvaise gestionnaire. Ursula von der Leyen est la ministre allemande la plus impopulaire depuis des mois. Angela Merkel lui offre une porte de sortie prestigieuse. C'est une Européenne engagée, expérimentée et respectée qui arrive à Bruxelles. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Une autre femme, une Française, arrive à la tête de la Banque Centrale Européenne. Christine Lagarde, qui va donc quitter ses fonctions de directrice du FMI. Le Premier ministre belge, Charles Michel, hérite de la présidence du Conseil Européen, tandis que le socialiste espagnol, Josep Borrell, est proposé pour prendre la tête de la diplomatie européenne. Dernière étape de ce mercato. Aujourd'hui, le Parlement européen va se choisir un président à Strasbourg. Les nouveaux députés voteront à bulletin secret pour élire le successeur de l'Italien Antonio Tajani.
La grève des notes va-t-elle retarder la publication des résultats du bac?
Le ministère de l'Éducation nationale se veut rassurant, mais ne peut pas exclure des délais ici et là. 100 000 notes n'ont pas été communiquées à temps au rectorat par des professeurs en grève. Ils sont nombreux à être vent debout contre la réforme du lycée et du baccalauréat de Jean-Michel Blanquer. Écoutez Vincent, il enseigne l'histoire-géographie dans l'Académie de Créteil. Il a corrigé 116 copies, mais il garde les notes.
C'est la cartouche qu'on n'avait pas envie de sortir. On le fait à regret parce qu'on travaille avec nos élèves pour le bac. On suit nos classes depuis la seconde, c'est-à-dire que nos élèves, on les connaît. Ça fait 3 ans qu'on travaille avec eux. On a envie qu'ils aient le bac. Certains ont déjà leurs résultats sur Parcoursup. Certains vont aller dans telle fac, telle école. On est très contents pour eux. On a envie qu'ils y aillent. On s'est battu pour ces gamins. Mais on n'a pas le choix. Tous les experts de l'éducation, de la pédagogie et de l'école, tous ont dit cette réforme ne va pas. Ils ont quand même décidé de la faire passer. On n'a plus le choix pour leur dire stop. Ce qu'on demande juste, c'est au ministère, c'est recevez-nous, entendez-nous, travaillons ensemble et à partir de là, aucun problème, on remet les notes et on souhaite bonne chance à nos élèves et on leur souhaite plein de succès dans leurs études supérieures.
Témoignage recueilli par Johanna Chabas pour Europe 1.
Pas facile de succéder à François Molins au poste de procureur national antiterroriste.
Son remplaçant s'appelle Jean-François Ricard, il a 62 ans, il prononcera son discours d'installation aujourd'hui au Palais de Justice à Paris. C'est un autre style, mais une longue expérience de la lutte contre le terrorisme islamiste. Son portrait par Chloé Triomphe.
En 1995, l'attentat du RER Saint-Michel fait 8 morts en plein cœur de Paris, revendiqué par le GIA, groupe islamique armé, mouvement salafiste, né en pleine guerre civile algérienne. Ce sera le premier gros dossier d'un attentat terroriste de Jean-François Ricard. Il est alors âgé de 39 ans et vient à peine de rejoindre la section antiterroriste après avoir débuté sa carrière comme juge d'instruction à Arras, puis Bobigny. Suivront d'autres enquêtes, comme celle de la station Port-Royal en 1996, celle du gang de Roubaix ou encore du soutien aux assassins du commandant Massoud. Pendant 12 ans, le magistrat va se plonger dans cette matière aux côtés du médiatique juge d'instruction Jean-Louis Bruguière. Aujourd'hui, c'est au djihadisme nouvelle génération que Jean-François Ricard va devoir s'atteler entre les enquêtes en cours et des procès très attendus, comme celui dès le printemps 2020 de l'attaque de Charlie Hebdo, où les magistrats de ce tout nouveau parquet national antiterroriste iront pour la première fois requérir eux-mêmes devant les assises.
Chloé Triomphe du service police-justice
Europe 1.
À suivre dans le journal de 8h, le grand débat de société de la rentrée prochaine sera la procréation médicalement assistée pour toutes. Comment vont se positionner les députés Les Républicains? Enquête Europe 1 dans un instant, tout de suite.
Il est 8h07, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec David Doucan et le projet de loi PMA qui sera débattu à l'Assemblée nationale à la rentrée.
Oui, il s'agit d'autoriser la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et les femmes seules. Lors du quinquennat précédent, la droite parlementaire s'était violemment opposée au mariage pour tous, défendu par Christiane Taubira. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé. Les députés, les Républicains n'ont plus du tout le même état d'esprit. Bonjour Aurélie Herbemont.
Bonjour.
Et bienvenue, ils sont... Aurélie, un peu plus d'une centaine au Palais Bourbon. Vous en avez appelé 70.
Oui.
Quel est le résultat de votre enquête?
Eh bien, si un petit pourcent des députés de droite avaient dit oui au mariage pour tous, il pourrait être entre 15 et 20% à dire oui à la PMA pour toutes. 20 députés LR assurent y être favorables. On doit accompagner la société, glisse l'un d'eux. Maxime Minot, jeune député de l'Oise, fait campagne auprès de ses collègues.
C'est un sujet qui ne doit être ni de droite ni de gauche. On connaît tous une personne qui est allée à l'étranger pour faire une insémination. De près ou de loin, on a tous un petit cas dans notre circonscription. Et je pense que voilà, c'est juste arrêter de fermer les yeux sur un sujet qui existe depuis des années.
Alors depuis 2013, les lignes ont bougé. Des élus qui avaient voté contre la loi Taubira veulent s'abstenir. Cette fois, on doit sortir du conservatisme, glisse l'un d'eux. Quelques-uns voteront même pour, confiant avoir évolué sur ces questions. Et ce qui est frappant, c'est qu'ils sont plus d'une vingtaine à attendre les débats pour se forger une intime conviction. Une crainte revient en boucle que la PMA conduise à la GPA. Les anti-GPA, qui seront les plus nombreux chez LR, mettent en avant les droits de l'enfant. Mais une députée prévient... Il ne faut pas qu'on défile avec la manif pour tous, de la modération et surtout pas de militantisme, exhorte un autre. Certains suggèrent d'ailleurs que dans l'hémicycle, le temps de parole soit partagé entre ces différentes nuances de droite, histoire de prouver que chez LR, la diversité n'est pas un problème.
Enquête Europe 1, signée Aurélie Herbemont du service politique. Merci à vous Aurélie.
Voici maintenant un documentaire qui sort en salle aujourd'hui et qui va vous surprendre.
Oui, cela s'appelle « Oh les filles ». C'est réalisé par François Armanet. La thèse de ce documentaire, le rock'n'roll, n'aurait pas été inventé par des hommes, mais par des femmes. Mathieu Charrier.
Beaucoup estiment que le rock a longtemps été un truc de mec et que c'est Elvis Presley qui aurait inventé le rock'n'roll contemporain en 1954 avec ce titre. Mais pour les auteurs du documentaire, Edith Piaf l'avait précédé en 1949, le 28 octobre précisément, jour où l'avion transportant son homme, le boxeur Marcel Cerdan, s'écrase aux Açores. Le soir même, la Piaf est sur scène pour interpréter « Mon Dieu ».
Laissez-le-moi encore un peu.
Tout est là, expliquent les réalisateurs François Armanet et Bayon, tout ce que sera le rock du XXe siècle, entre complaintes et blues, cris du cœur et rage. Ils donnent donc la parole dans leur film à 10 femmes, 10 rockeuses, de Françoise Hardy à Brigitte Fontaine, en passant par Vanessa Paradis, Charlotte Gainsbourg ou encore Camélia Jordana et Jeanne Haddad.
L'histoire a effacé les femmes, donc peut-être... Effectivement que l'origine du rock est féminine.
Alors comment est-on passé d'un rock masculin, de papa, à un terrain de jeu féminin? C'est tout le propos de ce documentaire, en opposition aux clichés virils qui entourent notamment l'univers du rap.
Mathieu Charrier du service culture d'Europe 1. Je vous dis un mot de football, Nicolas.
Allez-y.
C'est la Coupe du Monde féminine de football. Les Américaines ont décroché leur ticket pour la finale. Hier soir, elles ont battu 2-1 l'Angleterre. Et la seconde demi-finale, c'est ce soir, Pays-Bas, Suède.
Vous n'avez pas vu le match, j'en suis sûr.
Ah non, je dors à cette heure-là.
Vous essayez de dormir et de préparer de votre interview. Dans quelques instants, vous recevez qui ?
Nicole Belloubet, la ministre de la Justice.
Très bien, tout de suite.
Et on continue de recevoir vos réactions sur Twitter, hashtag Europe 1. On a toujours, tous les jours, beaucoup de réactions suite aux petites histoires de Jean-Philippe Ballas. Et ben, j'avais envie de vous lire celle-ci de Rosemary.
Allez-y.
Qui nous dit « Vos petites histoires quotidiennes sont des roux-doudous pour le cœur, elles font du bien. » Et c'est vrai. Continuez à nous écrire, hashtag Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 8h11, coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet, Nikos.
Bonjour François Hervouette.
Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous.
Deux femmes à la tête de l'Europe. D'abord une Française, on l'a dit, Christine Lagarde à la Banque Centrale Européenne, et l'Allemande Ursula von der Leyen à la Commission Européenne. Les premières femmes à ces postes, c'est historique.
Ah oui, alors, qui a dit que l'Europe était en panne ? Ce duo de dames, c'est la surprise qui montre qu'à 27, on peut prendre des décisions qui démontrent vraiment que le tandem franco-allemand garde le manche. L'Union est, comme elle a toujours été, une magnifique machine de propagande. Gloire à elle qui pratique la parité, recherche le consensus, trouve l'équilibre. Et puis on vérifie qu'à la fin, comme d'habitude, c'est l'Allemagne qui gagne. Ursula von der Leyen va piloter l'exécutif européen, l'incarner face au monde, et elle a fière allure avec son casque de cheveux blonds et ses yeux verts de gris. Toujours impeccable, comme son CV. Elle est née pour être commissaire. Son père l'était et l'a élevée à Bruxelles. Ensuite, c'est une enfant blonde de Göttingen, la Basse-Saxe dont il est président. Très bonne élève, de très bonne famille. Elle est polyglotte. Elle devient gynécologue et économiste. C'est peu banal. Elle étudie à Stanford et à la London School. Et le comble, c'est qu'elle a trouvé le temps de faire 7 enfants. Et en plus de faire de la politique, elle est ministre depuis 15 ans, chouchou d'Angela Merkel et doyenne du gouvernement. Première femme ministre de la Défense. Elle plaît aussi à Emmanuel Macron parce qu'elle est réac et progressiste pour les quotas de femmes et le salaire minimum. Alors, sur le papier, tout ça est absolument bluffant. Même Jean-Claude Juncker peut lever son verre et chanter la Valkyrie.
Si on regarde dans le détail, apparemment, c'est plus compliqué.
Les sociodémocrates voulaient la virer du gouvernement. Elle est impopulaire même dans son parti, la CDU. En Allemagne, le ministre de la Défense est maudit, presque inutile. Ursula von der Leyen n'a pas réussi à réformer la Bundeswehr, qui fait honte. Les sous-marins fuient, les blindés rouillent, les avions sont en panne. Et puis, il y a une succession d'affaires, des audits trop chers payés, la rénovation du navire-école qui est un naufrage comptable, une polémique sur ses diplômes, des troufions d'extrême droite. Ursula von der Leyen a même une enquête parlementaire au Basque. Bref, c'est la plus faible des ministres allemandes et elle a trouvé une porte de sortie en rentrant à Bruxelles, sa ville natale. Alors tout ça plaît bien aux chefs d'État et de gouvernement, elle ne leur fera pas d'ombre, elle répétera avec d'autant plus de choix tout ce qu'elle a déjà dit, qu'il faut les États-Unis d'Europe, qu'il faut accélérer l'intégration pour échapper aux intérêts égoïstes des nations, que l'Europe doit se libérer des États, qu'une armée européenne verra bientôt le jour. C'est son credo, elle est fédéraliste pur jus. Alors Bruxelles est content, les féministes sont contents, les chefs d'État sont contents, populistes et souverainistes peuvent l'être aussi. Ils ont progressé partout aux élections européennes et ils devraient continuer avec une présidente de la Commission qui est leur antithèse absolue.
Vincent Hervouet pour l'édito international.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Restez avec nous dans 2 minutes, l'interview politique d'Europe 1 avec David Doucan qui reçoit la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. À tout de suite.
Très bon réveil à tous, il est 8h14. Il est 8h17, Nikos Aliagas.
La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, votre invité David Doucan, bonjour.
Bonjour Nicole Belloubet.
Bonjour.
Christine Lagarde à la Banque Centrale Européenne, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, deux femmes à ces postes si puissants des institutions européennes. C'est la première fois, ce n'est jamais arrivé. Est-ce que c'est un symbole de plus ou une réelle avancée à vos yeux ?
Les deux, me semble-t-il, c'est un symbole, évidemment, que de voir la parité, parce que c'est important, que de voir ces deux femmes à des postes absolument stratégiques. Et je trouve également que c'est une avancée parce qu'il me semble que la manière dont ce quatuor a été construit donne une impulsion au programme qui pourra être porté et développé pour l'Europe.
Un moment historique pour la cause des femmes, selon vous ?
Je ne le lis pas comme ça, je n'aime pas du tout ces expressions, les moments historiques pour la cause des femmes, ça a été le droit de vote, ça a été la première femme magistrate, ça a été etc. Non, c'est une étape dans la parité qui, je crois, est essentielle à l'équilibre de notre société.
Alors cette étape, il y a 70 femmes en France qui n'auront pas pu la vivre.
Absolument.
Celles qui ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. L'institution judiciaire est directement mise en cause puisque trop souvent, malgré des dépôts de plaintes, parfois multiples, la puissance publique n'a pas su les protéger. Écoutons ensemble Anne-Cécile Maillefer, la présidente de la Fondation des femmes. Elle était, il y a quelques instants, l'invitée sur Europe 1 de Nikos Aliagas.
Il y a des juges qui, clairement, n'ont pas mis certains dossiers en haut de la pile.
Il y a des manquements, vous voulez dire ?
Il y a des manquements, il y a des défaillances.
Alors, vous avez pris, Nicole Belloubet, des mesures pour y répondre, mais ces manquements perdurent. Que pouvez-vous faire exactement ?
D'abord, je voudrais juste dire que pour moi, c'est inacceptable. C'est un échec dramatique pour notre société que ces meurtres de femmes. Donc nous avons pris effectivement un certain nombre de mesures qui vont devoir se déployer dans la réalité. C'est d'une part une enquête pour vérifier parmi les personnes qui ont été tuées exactement là où les défaillances sont advenues. Je crois que c'est très important qu'on ait en quelque sorte un retour d'expérience sur ce qui a été fait tant par les enquêteurs que par la magistrature.
Parce que, excusez-moi, Nicole Belloubet, qu'est-ce qui se passe concrètement ? C'est les plaintes qui ne sont pas prises au sérieux ? Ce sont les sanctions qui ne sont pas suffisantes ?
C'est parfois la rapidité. C'est-à-dire qu'il faut, dans certaines hypothèses, prioriser les dossiers. C'est parfois le lien entre le parquet et le juge aux affaires familiales. Mmh. C'est parfois des ordonnances de protection qui ne sont pas délivrées de manière suffisamment rapide ou suffisamment nombreuse. C'est parfois les téléphones grave danger qui sont des dispositifs de protection qui sont délivrés encore avec parcimonie.
Alors, bref. J'explique. Les téléphones grave danger, c'est un téléphone, il y a un seul bouton, ça contacte un service 24-24, 7 jours sur 7.
Oui. Et
ça
efficace.
Permet de rapidement alerter les secours.
Absolument.
Il y en a, l'État en finance davantage
qu'ils
ne sont distribués.
Donc il faut absolument, j'ai alerté là-dessus les procureurs de la République et les procureurs généraux sur le déploiement de ce dispositif. Il y en a plus qu'ils ne sont distribués.
Il faut qu'ils les ordonnent.
Absolument. Ouais. C'est surtout, je vous le disais, les ordonnances de protection, parce que nous en avons, je crois, 3000 qui sont délivrées en France, ordonnances de protection des femmes, alors qu'en Espagne, pays voisin, qui a eu sur ce sujet-là une politique plus volontariste, c'est au moins 10 000 qui sont délivrés chaque année. Donc nous allons progresser et notamment j'ai demandé que nous mettions en place un dispositif très efficace qui s'appelle le dispositif anti-rapprochement.
C'est le bracelet électronique d'éloignement.
C'est le bracelet électronique d'éloignement. Ce n'est pas simple à faire parce que vous entendez bien que cela peut porter atteinte à la liberté individuelle d'aller et de venir. Donc il faut que les choses soient encadrées, soient claires.
Il faut changer la loi.
Et j'ai besoin d'un dispositif législatif. Je vais donc demander à ce qu'une proposition de loi soit très rapidement portée pour me permettre de généraliser cela.
Très rapidement, c'est quel calendrier pour vous ? C'est la rentrée de septembre ?
J'espère à l'automne.
À l'automne. On va passer à un autre sujet très difficile aussi, celui de la fin de vie. Vous le savez, le docteur Sanchez au CHU de Reims a annoncé avoir arrêté à nouveau les traitements qui maintiennent Vincent Lambert en vie depuis 10 ans. Les parents, les avocats pardon, des parents de Vincent Lambert ont fait savoir qu'ils allaient porter plainte contre ce médecin pour meurtre avec préméditation. Aux yeux d'une mère, c'est un meurtre. Aux yeux de la justice, qu'est-ce que c'est ?
Alors, d'abord, moi, je voudrais juste dire en préalable combien cette affaire est douloureuse. Elle l'est pour Vincent Lambert, elle l'est pour l'ensemble de sa famille et elle l'est d'une certaine manière pour notre société française qui est marquée par cette affaire. Juridiquement, puisque je me prononce uniquement là-dessus, juridiquement, les voies de droit sont épuisées et vous l'avez vu très récemment, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait interrompu l'arrêt des traitements.
C'était le 20 mai dernier.
Et la sédation profonde. Je crois que la Cour de cassation a considéré que la loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui avait été respectée et que donc la responsabilité des médecins et leur décision d'agir était tout à fait conforme à la loi.
La loi Leonetti,
la
à laquelle
Leonetti,
vous faites référence. Une question, Nicole Belloubet, l'euthanasie. Le suicide assisté, ce sont deux choses bien sûr très différentes. Faut-il, à votre avis, remettre ces questions-là sur le débat, au cœur du débat public ? Faut-il légiférer, dépénaliser, comme c'est le cas par exemple en Belgique ou au Canada ?
Si vous voulez, je pense qu'actuellement, Nous avons une loi, la loi Leonetti-Claes, qui fixe des conditions pour la fin de vie lorsque les personnes n'ont pas édicté de directives anticipées, puisque vous le savez, chacun d'entre nous a la possibilité d'édicter des directives anticipées. Cette loi est, me semble-t-il, doit encore être appliquée encore mieux. Et donc, dans un premier temps, moi, il me semblerait souhaitable d'appliquer pleinement cette loi. Elle l'est déjà, mais sans doute pas suffisamment, pas suffisamment comprise. Ouais. Et donc, je souhaiterais d'abord qu'on applique pleinement cette loi avant de se réinterroger sur ce sujet que vous évoquez, qui est un vrai sujet de
la
société.
La dépénalisation à titre personnel de l'euthanasie ou du suicide assisté, quelle est votre position à vous, Nicole Belloubet?
C'est un sujet sur lequel je suis extrêmement prudente.
Vous ne souhaitez pas vous exprimer. Vous avez une opinion en votre fort intérieur?
Bien sûr, j'ai une opinion, mais en tant que garde des Sceaux, je ne souhaite pas m'exprimer là-dessus.
On va passer à un autre sujet. C'est une loi, cette fois-ci, à laquelle vous n'hésitez pas à toucher. C'est nos auditeurs ne savent pas. Vous devinez ma question, mais oui, nous avons des auditeurs. La loi de 1800, vous allez nous expliquer. La loi de 1881 qui régit la liberté de la presse, oui, et qui la défend, cette liberté de la presse, en rendant...
Qui la protège, en rendant
plus difficile pour ceux qui voudraient attaquer en diffamation ou pour injure publique.
Absolument.
Et donc, ça permet de protéger le travail des journalistes. Et vous
Absolument.
Auriez l'intention, mais vous allez nous expliquer, de faire sortir l'injure raciste, notamment, et la diffamation de cette loi pour le faire entrer dans le droit commun. Donc, moins de protection pour les journalistes. Sachez que 50 organisations ont écrit un texte signé par la Société des rédacteurs d'Europe 1 pour dire stop à cette initiative. Allez-vous réellement procéder ainsi?
Alors, d'abord, je voudrais clairement dire que la loi de 1881 est une loi absolument cardinale pour notre démocratie.
Alors, on n'y touche pas.
J'ai un temps été membre du Conseil constitutionnel. À plusieurs reprises, nous avons expliqué à quel point la liberté d'expression était une condition de la démocratie. Le gouvernement, évidemment, entend parfaitement protéger cette liberté d'expression. Vraiment, c'est une condition même de la démocratie, de l'état de droit. Il n'y a aucune discussion là-dessus.
Que souhaitez-vous faire,
et
alors?
Il n'y a aucune proposition du gouvernement pour toucher à la loi de 1880.
C'est un malentendu,
Je n'ai jamais dit autre chose. Je n'ai jamais dit autre chose. Si vous reprenez ce que j'ai dit, je n'ai jamais dit autre chose.
Alors, quelle est votre volonté exactement? C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Parce qu'il est important aussi de lutter contre le racisme, l'antisémitisme.
Exactement. Il y a, vous le savez, des injures et des diffamations à caractère haineux, qu'il s'agisse de caractère raciste, antisémite, homophobe, etc. Donc ces injures-là, lorsque par exemple on injurie Alain Finkielkraut dans la rue,
comme ça s'était passé lors d'une manifestation de gilets jaunes,
voilà, eh bien c'est le cadre de la loi 1881 qui s'applique. Et donc un certain nombre d'associations, d'interlocuteurs, de magistrats disent que dans ce cas-là, on pourrait s'interroger sur le point de savoir si la loi de 1881 doit s'appliquer à ce type d'injure ou de diffamation. C'est une question qui est posée. Le gouvernement n'a aucune réponse a priori, aucune. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité interroger la Commission consultative des droits de l'homme, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, pour lui demander ce qu'elle pensait de cette question-là. C'est tout. Je souhaite que nous protégions, enfin je ne souhaite même pas, il va de soi que dans notre démocratie, la liberté de la presse, quelle qu'elle soit, doit être protégée.
Donc vous voulez rassurante ce matin, il n'est pas certain du tout que la loi de 1881 soit touchée.
Mais absolument,
c'est ça que vous dites ce
absolument,
matin.
Absolument, je dis que nous avons, dans notre société, cette question du traitement des injures à caractère raciste, homophobe, etc., que la question se pose de savoir comment nous les traitons pour être efficaces, c'est tout. Mais évidemment, si nous pouvons ne pas toucher à la loi de 1881, c'est tout ce qui est souhaitable.
Clarification utile de la garde des Sceaux ce matin sur Europe 1. Nicole Belloubet, merci d'avoir été mon invité.
C'était l'interview politique avec David Doucan sur Europe 1.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol, l'essentiel de l'info aussi. 8h30, la revue de presse avec David Abiker. 8h35, le journal de la Coupe du Monde féminine de foot avec Jérôme Lacroix. A tout de suite sur notre antenne.
Les l'essentiel de l'actualité tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol.
Mon cher Laurent Cabrol, il dit quoi le ciel ce matin?
Bah, il est quand même assez tourmenté, comme un peu, enfin comme beaucoup de gens, il est tourmenté. Et donc, si vous voulez, nous avons sur le Limousin une tendance orageuse assez marquée. Nous avons en ce moment quelques petites pluies dans l'Indre et sur le Berry, d'une manière générale. Et nous aurons cet après-midi des orages sur l'ensemble des massifs montagneux. Et puis un ciel souvent nuageux sur le Poitou-Charentes, sur le Morvan, la Franche-Comté. Il y a des secteurs, on est tranquille. Hein. Toutes les côtes de la Manche et la mer du Nord, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, la région parisienne, les Pays de la Loire, ce sera ensoleillé avec un petit vent de nord-est sympa, 40 km/h. Ça permet de rafraîchir l'atmosphère. Atmosphère.
Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
23 degrés à Caen cet après-midi. 24 à Lille, 26 à Paris, pardon, chez les amis, on pète les plombs. 27 à Bourges et Belfort, 28 à Nancy et Strasbourg, 29 à Nantes cet après-midi. Hein. 30 à Toulouse, à Bordeaux et Clermont, 31 à Toulouse, 32 à Marseille et Lyon et 37 à Nîmes. Voilà, et demain, ce sera un petit peu le même temps qu'aujourd'hui.
Merci Lolo Cabrol, à tout à l'heure.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Mercredi 3 juillet, toute l'actualité à 8h30 avec vous Nikos Aliagas.
Près de 60 personnes vont déposer une plainte collective auprès du parquet de Nantes aujourd'hui, plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et violence volontaire. Le soir de la fête de la musique, la police a mené une opération pour déloger des jeunes qui participaient à une soirée électro au bord de la Loire. 14 d'entre eux sont tombés dans l'eau. Steve, 24 ans, est toujours porté disparu depuis ce soir-là. François Coulon a rencontré Jérémy qui veut comprendre pourquoi les forces de l'ordre ont agi de la sorte.
Il n'y a qu'en portant plainte et en se faisant entendre qu'on arrivera à faire en sorte que ce soit puni et que ça ne se reproduise plus. Le fait qu'ils nous attaquent comme ça, c'était gratuit.
Vous êtes tombé dans la Loire vous-même?
Oui, moi je suis tombé dans la Loire. Sur ce coup-là, j'ai eu beaucoup de chance. C'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Ça fait 10 jours qu'il a disparu. Je viens ici tous les jours pour supporter ses amis et sa famille.
Vous avez été une dizaine à tomber dans la Loire, ça aurait pu être un bilan beaucoup plus lourd.
Ouais, moi j'ai aidé quelqu'un, je sais pas si sans moi il s'en serait sorti ou pas. Il était blessé, ça aurait pu être un bilan beaucoup plus lourd. Pourquoi ils ont agi comme ça, avec autant de violence? Je comprends pas du tout, je suis en totale incompréhension là-dessus.
Témoignage recueilli par François Coulon, le correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest. Total annonce ce matin le démarrage de sa raffinerie de biocarburant dans la Med, dans les Bouches-du-Rhône. C'est l'une des plus grandes d'Europe. L'unité basée en partie sur la transformation d'huile de palme importée suscite la colère des associations de défense de l'environnement. Édouard Philippe se rend en Corse aujourd'hui et demain, le Premier ministre qui doit s'entretenir avec Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni. Un centre de migrants de la banlieue de Tripoli en Libye visé par une frappe aérienne hier. Un premier bilan fait état d'au moins 40 morts, 70 blessés. Il pourrait s'aggraver. Il y avait 120 personnes détenues dans le hangar atteint par la frappe.
Europe 1.
Il est 8h33, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker, Nikos.
Bonjour David Abiker.
Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous.
Ce matin dans la presse, deux femmes peuvent en cacher une autre.
L'Europe vient d'inventer le concept de femme providentielle. C'est ce qu'on se dit en lisant la presse du jour. Deux femmes pour sortir de la crise, titre Le Figaro. Christine Lagarde et Ursula von der Leyen, les nouveaux visages de l'Europe. En une des échos, deux femmes à la tête de l'Europe, titre encore Le Télégramme. Et la presse est unanime. Quelle belle avancée sociétale que de choisir deux femmes. Laurent Marchand de West France résume à lui seul tous ces éditos satisfaits après des heures de négociations stériles entre États. Voilà une première historique avec deux femmes à des postes de pouvoir. C'est aussi la confirmation que sans un accord entre la France et l'Allemagne, l'Union européenne risque la paralysie. Mais si le sexe des responsables réglait tous les problèmes du couple franco-allemand, en particulier, et de l'Europe en général, ça se saurait, car ces deux Européennes au pouvoir en cachent une autre qui peut leur poser problème.
Et c'est une femme qui s'appelle Carola Rackete.
Celle que Matteo Salvini, ministre italien de l'Intérieur, appelle sans élégance l'emmerdeuse qui fait de la politique sur le dos des migrants. Et là, c'est un peu la pizzeria qui se moque de la mozzarella. Elle a été libérée hier soir, Carola Rackete, celle qui en quelques jours est devenue un symbole en aidant samedi 42 migrants à débarquer en Europe à bord du Sea-Watch 3 dont elle est la capitaine, est en photo dans Libération. Elle lève le bras en signe de défiance, allure juvénile et regard frondeur. Libérée hier soir, Carola Rackete est devenue en quelques jours, explique Libération, l'incarnation des citoyens d'Europe écœurés par les lâchetés des États européens qui les gouvernent. À 31 ans, cette spécialiste de la recherche polaire, défenseuse de l'environnement qui navigue depuis des années et reconnue même par la marine italienne pour son efficacité en matière de sauvetage, sauvetage, fait l'objet d'une enquête pour aide à l'immigration clandestine et pour avoir forcé le blocus des eaux territoriales italiennes. Dans la presse allemande, elle est devenue Capitaine Courage, Jeanne d'Arc, une Antigone. En trois jours, une cagnotte lancée par les médias allemands a recueilli plus d'1 million d'euros pour lui venir en aide. Et tandis que le président du Bundestag, Wolfgang Schäuble, invite les sauveteurs en mer à se demander s'ils ne font pas une fois de plus le jeu des passeurs, dans La Voix du Nord, Éric Dussart souligne combien le cas raqueteux va encore accentuer les divisions européennes. Comme si les dirigeants européens, dit-il, n'avaient que cela à penser, voilà qu'une jeune Allemande sur les flots humanitaires vient rappeler que la crise migratoire doit les concerner tous, ses dirigeants, et qu'ils doivent se montrer bien plus responsables et solidaires de l'Italie, de la Grèce ou de l'Espagne. Je vous le disais, deux femmes à la tête de l'Europe peuvent en cacher une autre.
Après les sirènes des navires méditerranéens, le concert des klaxons français.
Plus on est vieux, plus on fait du bruit en voiture. C'est le résultat d'une étude réalisée par le site Identicar et présentée dans Le Parisien aujourd'hui en France. Elle révèle que plus on avance en âge et sur la route, plus on klaxonne. Les 18-39 ans sont 16% à avouer une conduite sonore, quand ils sont 26% chez les plus de 70 ans. C'est pas une question d'audition défaillante, c'est une question de génération. Ceux qui ont appris à conduire après-guerre ont été éduqués à utiliser le klaxon, non pour agresser, mais pour avertir, ce qu'un ancien prof de conduite appelle aussi le klaxon moralisateur. Ça ne fait pas des vieux de meilleurs conducteurs, car à se focaliser sur les erreurs des autres, on ne fait plus attention aux siennes. L'interdiction du klaxon en ville ne date pas d'hier. En 1921, le premier code de la route proscrivait le klaxon, mais autorisait la trompe, parce qu'à l'époque, la trompe et le klaxon, c'était pas pareil. C'est vous dire si tout cela date. On reste sur la route ou sur le trottoir avec ce papier des Échos qui en réjouira plus d'un. Hécatombe sur le marché de la trottinette. Il y a un mois, Anne Hidalgo sonnait la fin de la récré pour les loueurs de trottinettes, expliquant que 3 sur 12 seulement obtiendraient l'agrément. Eh bien, la moitié ont déjà suspendu leurs activités, expliquent les Échos. Trop cher, trop vandalisé, trop compliqué à recharger. Le Front de libération des trottoirs peut crier victoire.
Vous en êtes de la trottinette ?
Non, absolument pas. Je suis contre, archi contre.
Moi
c'est
aussi
dangereux et c'est utilisé n'importe comment.
Voilà, ça, c'est dit. C'était la revue de presse avec David Abiker. À demain, cher ami.
Et les 8h37, c'est l'heure du journal de la Coupe du Monde féminine de foot. Europe 1 est la radio officielle de la compétition. Ce journal vous est présenté par Christophe Lamar aujourd'hui.
La Coupe du Monde féminine.
L'événement foot est sur Europe 1.
Christophe Lamar, à la une, un seul titre, ou presque.
Les États-Unis en finale de la Coupe du Monde, l'Angleterre a essayé, mais n'a rien pu faire. La Suède et les Pays-Bas tenteront ce soir de se qualifier pour la finale. Pourquoi faire ? On connaît déjà le vainqueur. Provocation ou principe de réalité ? L'analyse de notre consultante Sandrine Roux dans ce journal.
La Coupe du Monde féminine.
Europe 1. Radio officielle.
Et une question ce matin, qui peut battre les États-Unis pour l'instant ? Personne, en tout cas pas l'Angleterre.
Les Américaines se sont imposées 2-1 face aux Anglaises sans réellement trembler. Les voilà qualifiées pour leur 3e finale consécutive dans une Coupe du Monde. Ça valait bien un petit extrait de l'hymne américain, les supportrices et les supporters, direct from New York, USA.
For the land of the free and the home of the
de quoi être heureuse puisque leur équipe est qualifiée. Alex Morgan s'est réveillée hier soir et trône en tête du classement des buteuses avec 6 réalisations. Elles auraient tort de croire que le plus dur est fait, mais tout de même, les Américaines vont devoir attendre maintenant pour connaître leur adversaire. Ce sera la Suède donc, ou les Pays-Bas qui s'affronteront ce soir à 21h et toujours à Lyon. Cela n'a aucune importance pour la défenseuse Becky Sorburn.
C'était un super match. L'Angleterre a été très dangereuse. Elles ont très bien défendu, elles ont égalisé. Vraiment un bon match. C'était un grand combat entre les deux équipes qui voulaient absolument aller au final. Nous verrons qui nous allons jouer, mais l'important c'est de prendre soin de nous et de bien récupérer.
La défenseuse américaine Becky Sauerbrunn au micro de Cyril de la Morinerie.
Les regrets sont éternels et pour les Anglaises, il va maintenant falloir s'en remettre.
Les joueuses de Sa Majesté ont eu leur chance, mais la domination ne sert à rien si vous ne marquez pas à la fin. Les Anglaises en ont eu des occasions, au moins 2, un but refusé sur un hors-jeu millimétré, un pénalty stoppé, deux actions qui ont sapé le moral des Britanniques. Le constat de notre consultante Sandrine Roux est implacable. Les États-Unis restent les plus fortes et sont donc favorites pour le titre, finalement, quel que soit l'adversaire.
Au vu de ce qu'elles ont démontré contre les Françaises en quart de finale et contre les Anglaises en demi-finale, Oui, elles sont bien sûr qu'elles sont favorites. Oui, après on verra qui sera en finale contre elles, mais c'est une machine, vraiment. Enfin, quand on voit ce qu'elles sont capables de faire, c'est une machine. On sent qu'elles sont que personne peut les battre. Dans leur tête, elles sont, ce sont des guerrières.
Sandrine Roux au micro de Simon Rubin. Rendez-vous est pris. La finale est programmée dimanche à 17h. La Suède ou les Pays-Bas, adversaires des États-Unis, on le saura ce soir.
Merci Christophe Lamar. C'était le journal de la Coupe du Monde de foot.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Vous êtes prêts? Lui, il est toujours prêt. Même quand c'est le meilleur de Nicolas Canteloup, on a l'impression qu'il est là, juste à côté de nous. C'est la revue de presse avec Julie, c'est dans un instant.
Excellente matinée sur Europe 1, il est 8h40. Il est 8h42.
Nicolas Canteloup sur Europe 1, le meilleur, il est toujours là.
C'est presque du direct, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup, best of. Des responsables politiques de droite comme de gauche ont appelé Emmanuel Macron à ne pas défigurer la cathédrale. On est en duplex avec l'Élysée. Bonjour Monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, j'entends l'inquiétude de ces pisse-froids, paralysés par la modernité et le disruptif. Mais nous devons marquer la reconstruction de l'esprit de notre temps. Je fais une cathédrale avec une touche de notre époque. Par exemple, un rooftop et un espace de coworking végétalisé avec des baby-foot, des poufs, des food trucks qui vendent du hot dog.
Oh là là, ben ça promet, dis donc. On peut parler un peu social peut-être, ça changera. Tiens.
Mais allez-y.
Vous n'allez pas refaire une allocution télévisée pour livrer vos mesures qui concluent le grand débat. Vous pensez à une forme écrite, c'est ça?
Oui, de toute façon... Vous l'avez compris, la plupart des mesures ont fuité dans la presse et il faut faire preuve de pédagogie. Expliquer pourquoi, par exemple, nous devons repenser la durée du travail pour que nos entreprises restent compétitives. Elles n'ont pas les moyens, aujourd'hui, nos entreprises, d'augmenter les salaires. Elles n'ont pas ces moyens-là.
Et nous Emmanuel, c'est Bruno. Oui. C'est moi. J'ai une super nouvelle, Emmanuel. Total, le groupe Total annonce 100 millions d'euros pour Notre-Dame, c'est super.
Oui, mais, oui, ta gueule. Oui, donc je disais, il m'a coupé, pardonnez-moi dans mon erreur, je disais les entreprises ont besoin que les citoyens travaillent plus. Rétablir l'ISF ferait fuir nos grandes fortunes déjà fragiles. Et les entreprises n'ont pas les moyens.
Emmanuel, regarde par la fenêtre, regarde cette voiture, c'est
qu'est-ce
drôle.
Qu'est-ce que c'est encore?
Mesdames, Messieurs, Françaises, Français, le groupe LVMH vous annonce qu'il donnera 200 millions d'euros pour rénover Notre-Dame. Oui, vous avez bien entendu, Mesdames, Messieurs, 200 millions. Et ce n'est pas 200 millions de francs CFA, 200 millions, oui, d'euros. Et oui, mes chers concitoyens, chères concitoyennes, LVMH fait un don de 200 millions d'euros. Et ça ne nous gêne pas parce qu'on en a plein. Si la tour Eiffel brûlait demain, on pourrait même en rajouter 400 millions d'euros, Mesdames, Messieurs.
Mais ils sont cons, quoi.
Mais vos gueules!
C'est pas vrai! Mais faut qu'il se calme là, je suis en train de faire chialer la blonde à Europe 1 pour que les Français acceptent de bosser plus longtemps et eux ils viennent larguer des bifetons par Canadair. Mais ils sont cons quoi!
Oui, bon,
ce n'est
écoutez...
pas notre projet!
Le président chinois a quitté la France. Jean-Pierre Raffarin, bonjour! Ça s'est bien passé? Dites-nous!
Nia ho, bonjour à tous. C'est Jean-Pierre Raffarin, RFFRN, ce spécialiste en vieux chinois.
Donc Xi Jinping était content, racontez.
Mais content, c'est peu dire. Mais il était ravi, Madame Julie. Vous savez, pour lui, aller en France, c'est comme aller dans un spa. Hein. On s'occupe bien de lui. Il arrive, on l'accueille avec des petits chaussons, on lui masse le yonf, on lui fait des papouilles. Ça vous plaît, Monsieur Aliagas. On lui parle surtout pas lui parler des droits de l'homme, bien sûr. On ne lui parle pas non plus de la liberté de la presse. Il peut même choisir ses chansons pendant le dîner. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile de manger, de dîner en écoutant Hélène. Je m'appelle Hélène.
Bon, bah écoutez, pour être positif, il a quand même acheté 300 Airbus pour la somme de 35 milliards d'euros. Hein.
Ah, bah écoutez, ça c'est la moindre des choses. Ah, bah écoutez, c'est quand même comme partout. Hein. À la fin du spa, il faut quand même payer l'addition. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous. 35 milliards le massage, ça commence à faire beaucoup.
Ha 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 ha!
Emmanuel Macron a donc promis lors de son passage à Évry un grand plan pour les petites associations de banlieue. Bonjour Jean-Louis Borloo.
Allez, bonjour. C'est une éternité.
On est content, revenu sur trentaine. Alors.
C'est trop tôt une matinale. Le matin en plus, moi, je suis pareil. Faites pas de matinale à 16h. Il est où Jacques Pradel
c'est plus Pradel. Hein. C'est Nikos maintenant.
Ouais, et changement.
Alors, il y a du changement.
Changement, c'est tout le temps.
Alors, Jean-Louis Borloo, vous aviez travaillé pendant des mois sur un plan banlieue qu'Emmanuel Macron avait enterré avant même de l'avoir lu, déclarant « La banlieue n'a pas besoin d'un énième plan ».
Oui, c'est vrai. Alors, je pense que dans mon rapport Borloo, je proposais de mieux aider les petites associations aussi. Ouais. Ah, attendez, j'ai cherché parce que... J'avais cherché les 164 pages de mon rapport. Est-ce que je l'ai mis, ce rapport? Ah oui, c'est vrai, il est là.
Ah bon, il était où ce rapport alors?
Il est sur moi. J'ose pas vous dire où il était. Parce que...
Il était là.
Il était là où Emmanuel Macron m'a dit de le mettre. En tout cas, ça fait du bien de le sortir. Ouais, parce que je vous cache pas que ça me gênait un peu pour marcher.
Ah oui, ça, on l'imagine. Vraiment. Merci Jean-Louis Borloo. Gérard Collomb est avec nous maintenant. Bonjour Monsieur Collomb, merci de nous avoir rejoint dans ce commissariat que vous connaissez bien, je crois.
Oui, Amiens. Bonjour Madame, bonjour Madame Bouchard également, hein, Monsieur Cabrol, Madame Dacosta, Monsieur de Villeneuve, Monsieur Abicard. Toujours silencieux. Écoutez. Oui, sauf lorsqu'il parle. Mais quand il roule, croyez-moi, il ne fait pas. Écoutez, bonjour aux agents de police, aux gardiens de la paix que vous rencontrez ce matin. Je les connais bien, vous l'avez dit, parce que lorsque j'étais ministre intérieur, je venais souvent, me recueillir à Amiens.
Vous recueillir ?
Oui, je venais régulièrement me prosterner devant la clinique qui a vu naître Emmanuel Macron. J'allais également en pèlerinage jusqu'à la boulangerie. Je faisais le chemin où Emmanuel Macron achetait régulièrement des pains au chocolat et des sucettes. Puis je partais, autant vous le confier, verser une larme devant le lycée où Emmanuel Macron a reçu cette instruction exemplaire qui a fait de lui aujourd'hui le grand sauveur, notre lumière au bout du couloir.
Non, c'est bon, on a compris. Alors, on voulait avoir votre avis d'expert sur les flashballs, ces fusils lanceurs de balles qui font polémique. Est-ce que vous considérez ces armes comme dangereuses et quelles étaient vos consignes, vous?
Écoutez, c'est beaucoup de bruit pour rien. Pour moi... S'ils sont correctement utilisés, ces flashballs ne sont pas dangereux. Vous savez, moi j'en ai utilisé moi-même avec Emmanuel Macron. Oui, non. Nous avons essayé cet outil dans les jardins de l'Élysée régulièrement. Je me souviens qu'il mettait une balle dans le lanceur de balles.
Oui.
Il tirait. La balle d'ailleurs allait assez loin dans les jardins, dans le parc de l'Élysée. Moi, j'allais la chercher, je la rapportais, et puis j'avais comme gratification un sucre. Et j'ai passé finalement de très belles après-midi avec ce flashball. Donc vraiment, je le dis aux forces de police et aux commissaires, tout dépend vraiment de la manière dont on l'utilise.
Merci Nicolas Canteloup et merci les auteurs Laurent Vassineur, Arnaud Demange, Philippe Cabrivière, évidemment. Notre Julie nationale.
Oui, vous retrouvez le meilleur de Nicolas Canteloup sur europe1.fr. Vous pouvez également toujours voter pour votre imitation préférée de Nicolas Canteloup sur la page du club Europe 1. Strauss-Kahn.
C'est vrai.
J'adore.
C'est vrai. Wendy Bouchard.
Wendy.
On a aussi Nicolas Sarkozy, pas loin.
C'est compliqué la vie, Michel Yagash. La vie, c'est comme un petit timbre-poste. Ouais. Ça passe si vite.
On va faire des imitations. Vous et moi, aux deux ânes, une fois par semaine.
Pipo et Mario,
voilà,
moi je viendrai.
Comment
avec
ça va,
plaisir,
Wendy?
Ça va très bien, chers amis. Je suis ravie de vous retrouver encore quelques jours ensemble. Et on va s'interroger à partir de 9h à quoi ressembleront nos plages cet été. Vous savez qu'au-delà de l'aspect pollué de notre sable fin, il y a la qualité de l'eau et il y a évidemment toutes les initiatives citoyennes, communales et européennes en la matière. Puis à partir de 10h, il y a un film qui sort aujourd'hui, Yesterday. La planète Beatles
se reconcilie. Aujourd'hui, hier.
Ouais, oui, hier, aujourd'hui. Et c'est déjà demain avec la musique des Beatles. Ça va être quelque
qu'est-ce
chose.
Qu'on ferait
deux spécialistes. Et bah, c'est précisément l'objet du film. On en parlera. C'est l'occasion de revivre tout ça en parole et en musique, les amis.
Merci Wendy Bouchard. C'est dans 8 minutes sur Europe 1. Votre tour de la question.
Vos appels pour Wendy Bouchard au 3921 à suivre la météo et l'essentiel de la matinale. Tout de suite, la météo, Nikos, avec Laurent Cabrol.
Mon cher Laurent Cabrol.
Oui, j'étais un petit peu pessimiste tout à l'heure en vous disant que demain, ce serait un peu la même journée qu'aujourd'hui. Demain, ce sera quand même un petit peu mieux. Alors, je vais résumer pour aujourd'hui, c'est simple. Nous avons des orages sur l'Est, c'est-à-dire essentiellement sur la région Rhône-Alpes, enfin les Alpes plutôt, sur les Pyrénées, sur le Massif central. Et nous avons quelques orages sur Limousin, on en a eu ce matin. Ça, c'est la première indication. Alors que sur la moitié nord, le nord de la Loire, tout simplement, c'est vraiment très beau, un temps très, très agréable parce qu'il y a un petit vent de 40 à l'heure. Demain, ce sera une journée presque belle sur quasiment toute la France, avec toujours des orages sur les massifs montagneux, mais dans l'ensemble, les températures commenceront à grimper, 27-34. Vendredi, soleil partout, on passe les 30 degrés en toute région, donc on a vraiment l'impression d'un nouveau départ de la canicule. Eh bien non, ça n'est pas la canicule.
La chaleur sera contenue.
Voilà, c'est une chaleur raisonnable,
normal,
mais de la chaleur quand même. Et puis samedi, dimanche, les orages envahissent toutes les régions de l'Est, le Massif central, le Berry. Ailleurs, ce sera nuageux, donc ce ne sont pas deux journées folichonnes. Et à partir de lundi, eh bien, c'est souvent nuageux sur la France. Et là, je pense que ce n'est pas encore totalement verrouillé, cette histoire-là, mais la semaine prochaine pourrait être quand même souvent nuageuse, porteuse d'averses. Bref, un temps totalement opposé à celui que nous vivons depuis quelques temps. Je termine avec les températures d'aujourd'hui. 23 degrés à Caen, 24 à Lille, 26 dans la capitale, 27 à Belfort, 28 à Nancy, 29 à Nantes, 30 à Bordeaux, Clermont-Ferrand, 32 à Marseille et Lyon et 37 à Nîmes.
Merci mon cher Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
On revient Nico sur les moments forts de cette matinale.
Tout d'abord, une grande première pour l'Union européenne. Deux femmes à des postes clés. Au terme de négociations marathon, les 28 ont finalement réussi à se mettre d'accord. L'Allemande Ursula von der Leyen récupère la tête de la Commission européenne. Christine Lagarde hérite quant à elle de la Banque centrale. Un casting surprise qui réjouit Emmanuel Macron. Écoutez, c'était dans le journal de 7h.
Madame Lagarde a été pendant plusieurs années ministre de l'économie et des finances. Elle a ensuite été à la tête du Fonds monétaire international, ce qui me paraît qualifié très profondément pour avoir les qualités requises, d'une part pour maîtriser la politique monétaire, d'autre part pour avoir une crédibilité face au marché, devant d'une part les investisseurs et tous les commentateurs de marché.
Aujourd'hui encore, une femme décède tous les trois jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. En dépit des efforts entamés par les pouvoirs publics, ce chiffre ne baisse pas. Les associations dénoncent la non-assistance à personne en danger, des plaintes pas toujours enregistrées, des femmes qui ne sont pas prises au sérieux. À 7h45, je recevais Anne-Cécile Melfer, elle est la présidente de la Fondation des Femmes, on écoute son témoignage.
Ces femmes, elles sont menacées de mort par leur conjoint ou ex-conjoint, et quand elles viennent demander de l'aide et qu'on les renvoie chez elles, on les expose à un danger très très grave. Si, par exemple, vous allez à l'hôpital et qu'en sortant des urgences, vous mourrez, il va y avoir une enquête, il va y avoir une chaîne de responsabilité. Et là, nous, ce qu'on voit avec les familles, c'est que bien souvent, quand l'ex-conjoint en arrive à tuer sa compagne, il n'y a pas forcément, même pas du tout d'ailleurs, une enquête pour voir ce qui s'est passé. Donc c'est ça qu'on dénonce aujourd'hui.
Alors, quelles mesures du gouvernement face à ces féminicides? 70 depuis le début de l'année. Réponse ce matin de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, était l'invitée de David Doucan, 8h15.
Nous avons pris un certain nombre de mesures qui vont devoir se déployer dans la réalité. C'est d'une part une enquête pour vérifier parmi les personnes qui ont été tuées exactement là où les défaillances sont advenues. Et j'ai demandé que nous mettions en place un dispositif très efficace qui s'appelle le dispositif anti-rapprochement.
C'est le bracelet électronique d'éloignement.
C'est le bracelet électronique d'éloignement. Eh oui. Je vais demander à ce qu'une proposition de loi soit très rapidement portée pour me permettre de généraliser cela.
C'était la garde des Sceaux ce matin sur Europe. Et pour terminer, un peu de musique.
Oh, partigiano, portami via.
Vous êtes nombreux à attendre la saison 3 de Casa del Papel sur Netflix. Ça sortira le 19 juillet. Voici un remix façon Bregovic de la chanson des partisans italienne. Vous la connaissez tous. Bella Ciao. Musique et soleil.
Mi sono svegliato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Goran Bregovic ce matin sur Europe 1. Bella Ciao, sa version revisitée avec ce son. Ces cuivres des Balkans, ça fait du bien pour bien commencer la journée. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. Wendy Bouchard arrive avec le tour de la question. On fera un autre point météo tout à l'heure avec Laurent Cabrol. Julie est dans la place. Je vous embrasse, Céline Dacostet. Je vous dis à demain.
Je vous embrasse. Ciao, Nikos.
Bella ciao. Bella ciao. Ciao.